un rassemblement pour montrer un peu à tous ces jeunes qui défilent, qui sont complètement manipulés, que nous, on veut aller bosser, lycéens, étudiants, et on se soutient ensemble.
Surtout, nous, on encourage les gens à entamer des actions en justice pour qu'on libère les facs. Tout le monde a le droit de faire grève, mais tout le monde a aussi le droit d'aller bosser, et il y en a ras-le-bol.
Bah, y en a qui ne pourront pas passer leur concours parce qu'ils ne seront pas préparés suffisamment.
Leur amphi, c'est leur chambre.
Ce qui est plus compliqué, c'est de récupérer les profs et de voir si on peut avoir plus de monde quand même.
Maxime et Frédéric préfèrent bloguer leur fac que la bloquer. Il y a une semaine, en pleine manif à la Sorbonne, ces étudiants ont eu le déclic. Faute de cours, ils ont mis leurs profs en boîte sur Internet.
Pour moi, l'État n'a aucun droit d'intervenir dans l'État. Si une société juge que son employé n'est pas bien, il part. C'est tout. Les patrons, ils ont quand même le droit de licencier. Maintenant, on tape sur des gens qui donnent du travail aux gens. Mais c'est quand même insensé.
Non, ils n'ont pas.
Et dans ce pays, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours les jeunes dans la rue.
Manifestation est terminée. L'ordre de dispersion a été donné. Au milieu du chaos, Cyril Ferret, syndicaliste à Sud PTT. Il semble spectateur. Il est ivre.
Ça ne justifie en rien qu'il ait été piétiné. Ça ne justifie en rien qu'il ait pu que les forces de l'ordre n'aient pas appelé les secours.
C'est alors que les CRS se lancent à la poursuite d'un casseur qui heurte Cyril Ferret. À terre, il est entouré par les CRS. Selon des témoins, des coups lui sont portés.
J'ai pas vraiment vu le coup de matraque, j'ai beaucoup centré sur lui mes photos et ce que j'ai vu c'est des coups de pied volontaires et involontaires quoi.
Reculez messieurs, reculez.
Sur ces images, un des fonctionnaires, l'USN, un coup de pied.
Monsieur Ferret n'a pas été tapé par la police. Monsieur Ferret a été arrivé place de la Nation, il saignait déjà. Donc il a même dit lui-même qu'il a été frappé par des manifestants. C'est M. Ferret qui a dit ça à mon collègue CRS.
Pas de retrait, pas de suspension, pas de dénaturation du CPE. Ce sont les mots du Premier ministre mardi soir devant les parlementaires et les sénateurs de sa majorité réunis à Matignon.
C'est dans tout l'intérêt du contrat première embauche que de permettre justement davantage d'embauches, davantage de chances et de ne laisser personne au bord du chemin.
Au même moment, avis de gros temps à l'Assemblée nationale, le CPE s'invite en plein débat sur l'Europe.
Mu par l'égoïsme, Monsieur Dominique de Villepin emprisonne la France dans son destin personnel. Seul lui importe de sculpter sa statue de présidentiable inflexible.
La gauche applaudit la charge, les députés UMP désertent l'hémicycle.
Bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission de BAF Radio, avec Bafman et Roland Richard, n'est-ce pas, ce soir. Nous parlerons une fois encore du CPE. Ils brûlent les livres, ils saccagent les universités, ils détruisent les urnes où sont contenus les votes. De partout nous viennent des informations de plus en plus alarmantes sur le comportement des anti-CPE. Et surtout sur leur façon de voyager d'une université à l'autre pour faire gonfler les votes en faveur des blocages des universités. Bref, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont cure de la démocratie, et ils mettent les bouquins à feu et à sang. Ça nous rappelle quand même quelque chose, ils occupent Paris, le souvenir cette fois-ci est tout à fait complet. Nous accueillons ce soir, comme à l'accoutumée, notre ami contre-bloqueur, blogueur de Nanterre, Roland Richard, bonsoir.
Bonsoir, Ria.
Bonsoir, comment ça se passe ?
Mais écoutez, là ça va très bien en ce qui me concerne ce soir, enfin au niveau santé, au niveau des nouvelles, c'est pas très brillant ce que j'aurais à vous annoncer ce soir, mais disons que la lutte anti-blocage se poursuit, se construit jour après jour, et c'est vrai que maintenant on commence à se connaître entre blogueurs, entre administrateurs de forums, etc. Donc et quelque chose qui est en train de prendre, mais c'est vrai que la tradition, on va dire, des gens qui étudient, etc., n'est pas forcément la manifestation, et donc c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser. Voilà.
D'accord. Bien, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir en direct via l'interface de Skype qui se trouve sur www.bafouet.com. Pardon. Un chat dans la gorge. Vous cliquez sur « Chat with me ». Hein, c'est pas sans rapport. Bref, et vous pouvez donc poser vos questions, vous posez aussi par écrit via la messagerie, par écrit via email ou directement en vous adressant en audioconférence via Skype. C'est assez simple, on vous attend, on attend vos questions, on attend surtout vos témoignages. C'est toujours un petit peu difficile de réunir tous les témoignages de ce qui se passe en province, les différentes photos et compagnie, etc. Donc on compte bien sur vous, cette émission est la vôtre. Nous allons tout de suite reprendre Roland qui va nous raconter un petit peu l'émission anti-blocage qui a eu la manifestation anti-blocage qui a eu hier à Paris, c'est bien ça?
Voilà, alors hier en fait à l'appel d'un certain nombre d'associations dont une association qui s'appelle Liberté Chérie, c'est en fait l'association principale qui avait lancé hier cet appel à manifestation. Et donc, hier, donc, il y a eu une manifestation à la place du Panthéon, qui se situe donc tout à côté de la Sorbonne, donc à Paris, la Sorbonne, donc l'emblème universitaire qui a été à plusieurs reprises, qu'on a tenté d'occuper, etc. Enfin, je dis bon, je ne me comprends évidemment pas dedans. Mais que les anarchistes, les gauchistes, etc. ont tenté de récupérer, et évidemment maintenant c'est très difficile de, ne serait-ce que d'aller en face, étant donné que le quartier a véritablement été sécurisé. Et quand je dis sécurisé, il faut quand même se rendre compte que lorsque vous allez dans le quartier latin aujourd'hui, vous êtes dans une atmosphère lourde, surtout lorsqu'on dépasse 18h, où la tension commence, les grillages de CRS entourent donc toutes les rues adjacentes à la Sorbonne, donc il faut vraiment se rendre compte qu'en fait on ne peut plus accéder au bâtiment de la Sorbonne aujourd'hui, ça n'est plus possible, on ne peut plus rentrer dans la Sorbonne sinon en ayant un uniforme de police. Donc ça c'est pour mettre un peu, pour planter un peu le décor. Et puis donc nous avons fait une manifestation en place du Panthéon, nous avons réuni, alors les chiffres se contredisent, Libération qui est un journal de gauche dit qu'il y avait 100 personnes. Bon, ce genre de chiffre me fait plus rire qu'autre chose. Le Monde, qui est un journal, on va dire, centre-gauche, a dit qu'il y avait eu 200 personnes. Donc on est toujours quand même dans les mêmes eaux. Et la police a dit 600. Ça veut dire que quand même, quand un journal est en dessous de la...
C'est quand même c'est la première fois que la police dit plus que les journaux.
Voilà, ouais. Donc non, mais en réalité... En réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'à 14h au début de la manifestation, nous étions très peu nombreux. Il faut être honnête. Je pense en revanche que donc la manifestation a commencé à 14h. Là, nous étions 100, 200 de fait. Et à 15h, nous étions 2000. Moi, je c'est vrai que même avec certains de mes amis sont en désaccord avec ces chiffres. Alors, pour être modéré, je vais dire au moins 1500. Mais je n'irai pas en dessous parce que je sais qu'on était plus nombreux que dimanche, et dimanche on était 1000-1200. Donc ça de toute façon c'est catégorique. Ce qui était bien, ce qui était positif dans cette manifestation, c'est que justement l'UNI n'a pas tenté, c'était la grande crainte des apolitiques qui ont lancé donc ces manifestations anti-blocage, l'UNI n'a pas tenté de récupérer le mouvement, elle a distribué ses autocollants qui n'étaient pas avec... Il n'y avait absolument pas inscrit UNI, c'était juste des autocollants stop la grève. Et puis finalement, on avait des tas d'autocollants. Il y avait des autocollants Liberté Chérie, des autocollants de deux autres blocs, Halte au blocage et SOS Fait Bloqué. Bon bref, c'était une ambiance très bonne enfant, ça s'est très bien déroulé. Avec donc des slogans tout à fait sympathiques, Liberté d'étudier, SOS Fait Bloqué, bon bref. Avec après quelques on a vilipendé un peu, c'est vrai, l'UNEF, parce que on a une manifestation anti-CPE qui est passée tout à côté, donc on a cru qu'ils viendraient nous ennuyer. En fait, ils ne sont pas venus. Alors est-ce que c'est grâce à la police ou est-ce qu'ils, de toute façon, ils avaient prévenu de nous voir, on ne sait pas. Mais bon bref, ils sont pas venus nous voir. Mais donc c'est vrai que non, c'était une très bonne manifestation. On est quand même content. Je pense qu'on peut être même fier de ce qui s'est passé, oui. Ça, c'est vrai que c'était une bonne chose, dans la mesure en plus où il faut vraiment imaginer que la plupart des gens qui vont se mobiliser sont des gens, la plupart des gens qui sont contre le blocage, j'ai envie de dire, ouvertement, et qui n'hésitent pas à s'associer à l'UNI, sont des gens de droite. Or, la plupart, enfin, je veux dire, c'est un fait, c'est un constat, hein, c'est pas pour dire que toute la gauche est derrière et les blocages, etc., et que toute la droite est contre les anti-blocages, mais de fait, dans les gens qui sont venus manifester, ils sont quand même assez typés. Ne serait-ce que physiquement ou dans l'habillement. Donc c'est vrai qu'on voit bien que c'est quand même majoritairement des gens de droite, et que c'est vrai que mobiliser les gens de droite, c'est toujours difficile. On n'a pas une tradition à droite spécifique de manifestation, alors qu'à gauche, elle existe beaucoup plus certainement. Donc voilà, c'est vrai que 2000 personnes, c'est un bon résultat. On espère quand même arriver à faire 5000 personnes au cours de nos manifestations. Mais c'est vrai que... Non, c'était une très bonne manifestation parce que...
Alors déjà, on sent que vous n'avez pas vraiment le soutien de la presse, quoi, en général.
Alors là, en fait, on en a eu... Ce qui est complètement, en fait, très curieux, c'est qu'on en a eu, moins que lors du sitting de dimanche. Dimanche, oui, donc il y a eu un sitting, parce que je ne crois pas en avoir parlé, dimanche, donc il y a eu un sitting sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, qui a rassemblé 1200 personnes, où c'était une action pacifiste, où on n'a pas bougé, on s'est assis, on était habillés de blanc, et où nous avons en fait simplement manifesté notre mécontentement à l'idée de ne plus pouvoir aller en cours. Et là, nous avions été relayés par 5 chaînes de télévision françaises, dont les 3 principales, TF1, France 2, France 3, et par 2 chaînes du câble, donc iTélé et Euronews, donc ce qui était quand même très positif, et plusieurs radios, même une chaîne de télévision allemande. Donc c'est vrai que non, c'était positif. Là, ça a été, moi, ça m'a quand même un peu choqué, parce que c'est vrai que là, on a eu l'impression que on était moins appuyés, alors qu'on était quand même plus nombreux. Et puis surtout, ce qui est quand même désespérant, c'est que on a l'impression que oui, c'est ça, la presse ne voudrait en fait, bon, elle est obligée de parler de nous, parce que bon, bah, déjà, il y a des gens au sein même des manifestations qui ont des contacts avec la presse, etc. Mais sinon, on a vraiment l'impression que non, on n'est pas soutenu. Ça, c'est vrai. Hein. Faut être tout à fait honnête. On n'a pas l'impression d'être soutenu.
Bon alors, on n'a pas la presse. Enfin, vous n'avez pas la presse. Vous n'avez pas vraiment le nombre pour faire le poids avec les anti-CPE. Qu'est-ce qui vous reste?
Alors, mais écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a, j'ai vu une dépêche juste avant de venir donc intervenir ici. Concernant le ministre de l'Éducation nationale française, qui s'appelle Pierre Robien, qui appelle en fait plus ou moins des actions violentes. Bon, alors c'est la version immédiate qui est un site anarchiste, et donc il faut quand même replacer les choses en contexte, hein, mais qui appelle plus ou moins des actions violentes contre justement, contre donc les bloqueurs tout simplement. Et c'est vrai que je ne sais plus comment faire, étant donné que les référendums qui ont lieu. Je parle même au nom de Nanterre. Si aujourd'hui un référendum avait lieu à Nanterre, d'une part, on est très mal informé. Le site ne nous raconte qu'une chose tous les 5 jours. Donc il faut aller sur les blogs, les forums différents pour avoir plus d'informations, ce qui est complètement scandaleux. Ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est que s'il y avait un référendum, ne serait-ce qu'à Nanterre, qui est pourtant une très grande université, on peut d'ores et déjà affirmer que l'on perdrait ce référendum. Je dis « on », et là, je m'inclus dans les gens qui sont contre les blocages. Pourquoi ? Parce que les gens ne se déplace plus à l'université. Pour être passé à l'université, je crois que c'était lundi matin que j'y suis passé, l'université est morte. Vous avez, je sais pas, quelques dizaines d'étudiants, et puis c'est tout. Vous avez 300 bloqueurs qui se réunissent dans une AG pour revoter leur accord entre eux, comme quoi il faut continuer de bloquer, donc évidemment, ça n'avance à rien. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc du coup, on ne sait même pas comment croire au référendum. D'un autre côté, le dépôt de plainte qui avait été posé contre, qui avait été déposé contre l'université de Nanterre et notamment contre les bloqueurs, etc., a été rejeté par le tribunal administratif pour des raisons de sécurité, majoritairement. Donc du coup, en fait, on n'a plus aucune solution aujourd'hui pour retourner en cours, tout bêtement. Surtout qu'on sait, en plus, et je veux dire là, on en est quasiment sûr que maintenant, s'il y a eu un doute un peu ce week-end, on s'est dit ben voilà, Villepin va lâcher, le Premier ministre, donc le chef du gouvernement français va lâcher, il est sous la pression, là c'est terrible, il y a eu 1,5 million de gens dans la rue samedi, donc bon, c'est vrai qu'on s'est dit il va lâcher, il va céder, il va lâcher du lest. Et puis dimanche, on a eu une intervention du secrétaire général du Parti socialiste, Monsieur François Hollande, qui était complètement déplorable, soyons honnêtes, et qui nous a dit que de toute façon, l'important, ce n'était pas de lâcher du lest, sous-entendu de modifier le texte, mais tout simplement de l'arrêter, de le retirer, pas simplement de le suspendre, mais de le retirer. Donc, on se retrouve quand gauche, même devant une...
Excuse-moi d'interrompre, est-ce que la gauche propose quelque chose en remplacement?
Alors, voilà ce qui a été proposé par M. François Hollande ce soir-là. Monsieur François Hollande a proposé de faire un contrat spécifique pour les jeunes, avec une formation qui soit intégrée et obligatoire, notamment pour les jeunes non qualifiés, à l'entreprise, et que si cette entreprise s'engageait donc à prendre ce jeune en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, et donc on ne parle plus du tout de CNE-CPE hein, avec M. Hollande, si elle s'engageait donc à prendre ce jeune non qualifié en CDI avec une formation permanente en même temps, alors dans ce cas elle recevrait des subventions de l'État, cette entreprise.
C'est le goût classique, ouais. Donc franchement, on va fonctionner le contribuable pour donner des subventions.
Voilà. Et donc, si vous voulez, on est dans l'éternel cycle infernal de plus d'interventions économiques de l'État encore dans l'entreprise, comme si ça n'avait pas assez. Et donc, si vous voulez, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais parce que ces contrats, il faut bien spécifier qu'il y a des contrats aidés qui existent nominalement de cette façon-là. Mais bon, là, je le prends au sens du verbe. Mais tous ces contrats aidés de l'État, par l'État, par des subventions, on sait aujourd'hui que ça a tué un certain nombre d'entreprises qui ont vécu sous perfusion pendant un certain temps, et puis finalement, sans qu'elles en sortent. Donc, il faut quand même, à mon avis, reconsidérer. Je ne pense pas que la proposition de M. Hollande soit bonne, mais au moins, elle a le mérite d'exister. Parce que jusqu'à maintenant, les anti-CPE disaient juste qu'ils voulaient le retrait du CPE, et M. Hollande a quand même le mérite de proposer quelque chose d'alternatif. Alors après, on en pense ce qu'on veut, c'est vrai. Hein, personnellement, je suis pas favorable à cette idée, mais au moins, il a le mérite de proposer quelque chose. Ça, il faut être honnête. Non, mais c'est vrai que bon, on a très peu de propositions à gauche, ou en tout cas très peu de propositions qui puissent valoir quelque chose vraiment, si vous voulez. C'est ça le. Et l'angoisse, c'est qu'on se dit que finalement, on va pas en sortir, parce que les blocages ont démarré sur la base du fait qu'il fallait qu'il y ait le retrait total et définitif du CPE pour que les blocages s'arrêtent. Or là, ça n'arrivera probablement jamais. Jamais, je dis jamais, en tout cas du moins jusqu'à 2007. Et en 2007, où il y a les présidentielles, il faudrait que la gauche gagne. Ce qui n'est à mon avis pas gagné non plus. Hein, donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on est dans une situation de blocage inextricable, où on ne sait pas comment on va pouvoir reprendre les cours. Et je ne dis pas quand, je dis comment. Ce qui est quand même beaucoup plus grave. C'est-à-dire que quand, alors là, on n'en parle même plus, mais comment, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'alternative maintenant. On sait que le CPE ne sera pas retiré. Les violences contre les bloqueurs, il y en a eu. Aujourd'hui, il y a eu, alors ça c'est pareil, hein, je précise, version immédiate, hein, donc site anarchiste. Il y aurait eu deux étudiants syndiqués à l'UNI qui seraient vus avec des pinces monseigneur pour découper les chaînes mises autour des bâtiments. Et donc, peu importe que ce soit vrai, à la limite, ou pas, et ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que de toute façon, ces violences-là, on sait que malheureusement, elles n'aboutissent pas. À Toulouse, ça a eu lieu, et puis finalement, alors, ils ont gagné. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à mobiliser des gens qui sont prêts, il faut quand même être très clair, hein, qui sont prêts à se battre pour récupérer leur université, et c'est quand même quelque chose, symboliquement, c'est quand même très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, étudiants, qui sont, selon la définition française, des jeunes intellectuels en formation, ça veut dire qu'on est obligé de se battre avec nos mains et non plus avec nos idées pour récupérer l'endroit où nous pouvons étudier, l'endroit où nous pouvons acquérir du savoir, etc. Je trouve quand même que c'est proprement scandaleux. Ça veut dire qu'on est pris en otage, qu'on n'a aucune alternative, qu'on ne sait plus comment faire. Aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On n'a plus d'alternative.
Comme quoi,
en tout cas, je parle pour le cas de Nanterre, on n'en a plus. On n'en a plus du tout.
Comme quoi,
étant donné que le tribunal administratif ne nous a pas donné raison, on ne sait pas comment faire.
Ah, parce que finalement, vous avez une réponse négative, là.
Ben, on a eu une réponse négative pour des raisons de sécurité. Ils nous ont dit que les cours ne devaient pas être rouverts, et puis aussi pour des raisons de nombre. Mmh. Ça marche, si vous voulez, dans une petite faculté. Alors, je ne connais pas de ville, donc je ne vais pas m'aventurer, mais pour une petite faculté de 2000 étudiants, si vous voulez, les cours sont petits, on peut faire des cours dans des locaux de la mairie, etc. Ça, c'est faisable. Mais quand vous avez une université aussi gigantesque que Nanterre, qui a 32 000 étudiants, c'est absolument impossible de prévoir d'autres locaux que ceux qui existent pour faire des cours. Et puis, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'une discipline avec une année spécifique, c'est-à-dire un master de droit qui correspond à la 4e, 5e année d'études, est un cours, et puis en première ou deuxième année de philo, on n'est pas cours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'il y en ait qui courent et puis pas d'autres. Donc, Le problème est là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est prisonnier, et honnêtement, moi, je suis très pessimiste maintenant. Ça ne le semble peut-être pas, mais c'est vrai que là, je suis pas découragé, parce que je me battrai de toute façon, mais je suis pessimiste, oui. Voilà. Je pense qu'on ne reprendra pas les cours avant très longtemps maintenant.
Un petit coup de barre.
Oui, bah oui, parce que c'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on se bat. Moi, ça fait un mois et demi que je me bats. Un mois et demi, c'est un peu gros, mais ça fait presque 5 semaines maintenant que je me bats contre cette absurdité.
Bon, alors, tu vois, lors de la dernière émission, tu nous prêchais un petit peu la paix, l'amour et la fraternité. On a vu quand même que depuis, il y a eu des manifs de mecs de droite qui sont arrivés pour taper un petit peu sur les types de gauche. Les CRS ont un petit peu laissé faire aussi. On a vu ailleurs, à Toulouse, notamment une reprise de fac, plus ou moins spécifique, n'est-ce pas ? Et puis on l'a vu à Grenoble, alors apparemment, là, à Grenoble, par voie de justice, ça a fonctionné. Toute la ville de Grenoble a été, du moins en théorie, libérée, si je ne me trompe. Maintenant, on a un petit peu des signaux de partout. Il y a des votations qui se mènent encore, je crois, du côté de l'Uni. Il y a eu pas mal de choses, mais bon, ça a l'air de stagner. Alors, tu me disais l'autre jour, je crois aussi, si on en vient à leur supprimer les vacances.
Alors, là, de toute façon, aujourd'hui, enfin, je vais d'abord répondre sur Grenoble. Il faut savoir que le tribunal administratif a donné raison à ceux qui voulaient reprendre les cours, mais qu'il y a eu un référendum là-bas, et qui a donné tort à ces mêmes personnes qui avaient fait le recours en justice. Et du coup, le vice-président de l'université a dit « Je pense que ce n'est pas en envoyant les forces de l'ordre que l'on va apaiser les choses », donc il a laissé faire. Donc, ce qui fait qu'on a un recours administratif qui donne raison à ceux qui veulent reprendre les cours, mais à cause d'un référendum, on sait toujours très démocratique, hein, je veux dire, bon, on sait comment ça se passe. Bon, là, de fait, c'est un référendum plus démocratique que les assemblées générales, puisqu'on vous mettait une croix après avoir voté, on sait que bon, les manifs, etc., ça existe toujours. Et du coup, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où, de droit, les étudiants peuvent, ou normalement devraient pouvoir retourner en cours, et puis finalement, le vice-président, qui est mou, qui est lâche, qui ne donne pas suite, et qui dit, bah oui, il y a eu un référendum, les gens sont contre la reprise des cours, donc moi je laisse faire. Donc ça, c'était pour répondre sur le cas de Grenoble. Donc, même malheureusement, si vous voulez, quand on a raison, contre ces révolutionnaires, on ne peut pas gagner.
Bon, alors,
même quand on donne raison au niveau de la justice.
D'accord, mais il y a aussi le cas de Toulouse aussi.
Alors le cas de Toulouse est différent, parce que le cas de Toulouse a marché. Et ça, c'est très différent, mais le problème de Toulouse, c'est que, l'avantage, je ne sais pas comment il faut dire, mais à Toulouse, c'est que ce sont des étudiants eux-mêmes qui sont allés récupérer, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on pourrait faire ça, étant donné, en plus, que Nanterre est quand même réputé plutôt à gauche. Ce qui veut dire qu'il faudrait quand même motiver un certain nombre de gens pour récupérer les bâtiments un à un. Il faut voir quand même que le campus est gigantesque à Nanterre. C'est pas 3 bâtiments, si vous voulez, qui sont juste à côté.
Ah, faites-vous plaisir, ça fait un mois que vous faites plus rien, franchement. Allez-y, quoi, qu'on rigole. Pensez aux journalistes, ça fait un sujet quand même. Allô ? Ah, je crois qu'on a perdu le signal. On passe un disque et on essaie de rattraper notre ami. Allô, Roland ? Bon, on l'a perdu, je passe un disque et je vous rattrape tout à l'heure.
Je suis là.
Allô ? Ouais.
Allô ?
Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germain, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel à la télévision. je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Mais enfin tout ça, c'est le conflit des générations. Je viens rechercher mes bonbons. Et tous les samedis soirs que je peux, Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Parce qu'enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est ça votre jeune frère, Mademoiselle Germaine. C'est celui qui est flamingant. Je vous ai apporté de bonbons. Oh. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Mais que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont dans mon prison.
Voilà, j'ai récupéré mon ami Roland Richard. Un léger problème technique pour lequel nous nous excusons. Alors on va continuer un petit peu sur cette histoire de CPE. Il y a eu un grand événement dans la saga, c'est l'histoire de Cyril Ferrez, le syndicaliste légèrement alcoolisé de Sud PTT, qui a été, alors on ne sait pas s'il a été tapé, piétiné, on ne sait pas combien de fois il était amené à l'hôpital, il en serait sorti, il en serait revenu, on l'aurait vu ici, on l'aurait vu là, enfin bref, quoi qu'il en soit, il finit sous les pieds des CRS une ou deux fois en tout cas. Et puis on l'a récupéré, et on a depuis au moins 2-3 jours à la télévision, des tas de jeunes qui nous disent que c'est un scandale, que les flics l'ont fracassé, que surtout ils ont bien fait attention à pas appeler les pompiers, enfin bref, le policier français serait une espèce d'ennemi de l'humanité, un type malfaisant, mauvais et méchant, qui prendrait son plaisir à casser la tête des gens. De leur côté, les CRS disent qu'ils ont pris la confidence pratiquement sur l'article de la mort de ce pauvre syndicaliste, qui leur a dit lui-même s'être fait casser la figure par des syndicalistes. Ça semble un peu difficile à croire d'une part comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on sait de plus, Roland, de ce côté-là?
Alors bon, en fait, ce qui est problématique avec ce syndicaliste, déjà on a plusieurs versions. Et le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui il est dans le coma, et que ses jours sont comptés. Et que c'est vrai que même si aujourd'hui c'est un adversaire politique, on souhaite jamais ça à personne. Mais il faut quand même pas non plus. Alors il faut quand même respécifier. Il y a plusieurs versions. Déjà, il y a la version comme quoi il aurait dit à un CRS ce soir-là, avant de d'être récupéré par les CRS, qu'il se serait fait taper par des manifestants. La version donc des CRS, c'est celle-ci. Monsieur Ferrez aurait été tout simplement donc tabassé par des manifestants. Il était ivre mort, ça on sait qu'il était complètement rond. Et donc il serait resté en fait statique au moment d'une charge policière, et il se serait fait donc piétiner par les policiers après avoir été tabassé. Tout ça, c'est la version de la police. Et puis ensuite récupéré, et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui il est dans le coma. Donc un, on n'a pas sa version, et deux, surtout, le vrai problème, c'est qu'il est, enfin, je veux dire, il risque de mourir, tout bêtement, ce qui est quand même
il est vraiment toujours dramatique. Dans le coma, donc ça c'est
oui.
Avéré.
Ouais.
Il est pas sorti.
Oui. Non. Et donc c'est quand même ça qui aujourd'hui inquiète tout le monde. Hein, je veux dire, faut être honnête. Hein. Il n'y a pas de monstre d'un côté comme de l'autre. Hein, mais donc c'est quand même ça qui inquiète tout le monde. Donc ça, c'est la version, évidemment, la version des policiers qui quand même semble. Enfin bon, je veux pas prendre parti parce qu'il y a une enquête en cours. Donc ça semble quand même assez probable. Et puis il y a la version qui a été donnée par un journaliste, bon, alors évidemment inutile de vous citer le bord politique d'où il vient, qui nous aurait dit « Oui, je l'ai vu se faire matraquer, tabasser, et puis il l'aurait laissé là. » Enfin bon, bref, c'est un véritable roman mélodramatique. Et puis finalement, alors il est revenu sur ce qu'il a dit, il aurait dit « Bah oui, non, en fait, c'était peut-être pas celui-là, ce que j'ai vu se faire taper. » En bref, en résumé, en fait, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Il est possible qu'il ait pris un ou deux coups de matraque en plus parce qu'il était juste devant les policiers, que bon bah ils ont pas compris pourquoi il était là. On ne sait pas en fait, honnêtement on ne sait pas. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que aujourd'hui on a un policier qui est dans un état similaire. Et que ça par contre, les gens de gauche se privent bien de le dire. Et alors j'ai entendu la pire fausse excuse, puis c'est incroyable ce que j'ai pu entendre ce matin, de la part d'un journaliste qui s'appelle Gérard Miller. Gérard Miller, donc, sur France 2, qui, dans l'émission, on a tout essayé, c'était hier soir, et donc, c'est repassé ce midi sur TV5 Monde. Mmh. Et donc, en fait, Gérard Miller nous dit, oui, mais il ne s'agit pas des mêmes personnes. C'est-à-dire que, sous-entendu, les anarchistes sont là pour casser. Ou les casseurs, peu importe leur origine politique, sont là pour casser. Les policiers sont là pour protéger. Si un policier est dans le coma, c'est son boulot, sous-entendu. Alors que si un casseur est cassé, c'est pas son boulot. Donc j'ai trouvé que cette excuse complètement minable, mais bon, ça c'est un point de vue encore une fois. Et si vous voulez, on a l'impression que c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si il y a quelqu'un, ne serait-ce qui est contre le CPE, ou contre du moins ces manifestations violentes, on va dire que c'est le pire fasciste de l'histoire de l'humanité française, et que, en fait, bah, il avait qu'à pas être là, il avait qu'à pas raconter sa vie, il avait qu'à pas taper qui que ce soit. Il faut quand même redire ce qui se passe. C'est que depuis les manifestations, on a eu plusieurs dizaines, je veux pas m'avancer, mais peut-être même plusieurs centaines de policiers blessés. Alors oui, du policier légèrement blessé, la petite brûlure ou je sais pas quoi, au policier gravement dans le coma. Donc à chaque fois que c'est les manifestations violentes dans le quartier de la Sorbonne, c'est 30 policiers qui vont à l'hôpital. Alors que ce soit pour un petit bras cassé ou une petite foulure ou je sais pas quoi, jusqu'au coma. Donc, je crois qu'il faut quand même arrêter aussi la désinformation concernant ces casseurs. Cette personne-là de Sud de PTT n'avait rien à faire à cette heure-là à Nation. À partir de 20h, à partir même, en fait, ça a été plutôt à partir de 19h, Nation s'est transformée en un enfer réel. Avec des cocktails Molotov qui volent, avec des pavés jetés, des grilles envoyées, des barrières lancées, des policiers donc qui tombent, hein, faut quand même voir les images, c'est terrible à voir. Hein. On leur balance des matelas en flammes, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et puis, ben, évidemment, là, si vous avez quelqu'un qui est ivre mort au milieu, ben, j'ai envie de dire qu'il va être la première victime. Hein, on va pas comprendre ce qu'il fait là. Les casseurs, de toute façon, ont aussi peu de jugeotes qu'un grippin, donc ils vont aller le taper parce que c'est rigolo, puis il se défendra pas, si vous voulez. Il est déjà ivre mort. Bon, on sait pas vraiment d'où il vient, ça se trouve, c'est pas un des nôtres. Et puis les policiers, voyant qu'il y a quand même quelqu'un à cette heure-là, ils se disent, bah oui, tous les gens censés sont déjà partis, si vous voulez. À 20h, Nation, c'est une zone de non-droit. C'est entre casseurs et policiers que ça se règle, hein. Donc bon, je pense que honnêtement, ce qui a pu se passer, c'est qu'il se soit fait taper par les deux. Moi, c'est possible aussi. En fait, toutes les hypothèses sont probables aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que c'est dramatique ce qui s'est passé, mais il faut quand même souligner qu'il était quand même rond. Donc, il avait quand même bu, hein. Donc, c'est quand même pas non plus exclusivement de la faute des autres. Je veux dire, il avait bu et il n'avait pas bu au bon endroit. Quitte à boire, autant boire dans un endroit sécurisé, j'ai envie de dire. Donc,
On a entendu une des patronnes du syndicat Sud PTT qui disait que c'était pratiquement le lieu commun, quoi. Je veux dire qu'un syndicaliste en fin de soirée soit complètement alcoolisé, c'était normal, comme tout le monde. Enfin bref, qu'il n'aurait pas agi différemment de tout le monde. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que ces grandes élites morales et intellectuelles que sont les manifestants de gauche sont en fait une bande de poivrons qui passent leur temps à se balader comme ça, le poing en l'air entre la Bastille et l'Opéra, quoi.
Il faut rappeler quand même en plus que les Sud, c'est quand même quelque chose, parce que Cyril Ferrez est donc issu de ce syndicat. Sud est quand même très à gauche, et à Sud vous trouvez quand même des gens radicaux, hein. Donc ensuite, bah oui, évidemment, les manifestations tournent toujours comme ça. Les gens qui organisent ont, c'est toujours une espèce de tradition de se prendre une mine totale à l'alcool après une bonne journée réussie.
Bon, bah voilà. Après, c'est vrai que c'est terrible. Hein. Ça fait ce genre de conséquences. Moi, je trouve ça tragique. Mais on le sait maintenant. On le sait que toutes les manifestations finissent mal. Et celle-là, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu le cas Cyril Ferrez, c'était pas la pire, la manifestation du samedi 18 mars. Moi, j'ai presque voulu faire un article dessus en disant que c'était enfin une manifestation qui se passe presque bien. Et là, en fait, bon, bah heureusement, je me suis tué parce que finalement, on a eu ce cas terrible. Mais c'était pas la pire. C'était pas la pire. Quand moi, je vois hier encore ce qui s'est passé. Moi, j'ai quitté la Sorbonne, le quartier de la Sorbonne du Luxembourg, Port-Royal, donc qui est un quartier assez grand, assez vaste dans Paris. Je l'ai quitté à 17h ou 16h30 à peu près. Une heure plus tard, les policiers avaient dressé de nouveau des barrages totaux avec tout un tas, enfin des dizaines de policiers armés avec des tonfas, des matraques, des boucliers, des casques, etc. Et puis on leur balançait des trucs, mais c'est ahurissant ce qu'on voit qui sont balancés. Et ce que j'ai vu vraiment un geste qui m'a quand même marqué, c'est un barman qui a rangé les chaises qu'il avait mis à l'extérieur pour que les gens puissent s'asseoir. Donc il y a une angoisse, il y a une tension, si vous voulez, qui règne à la fin de ces manifestations. Et c'est vraiment terrible, quoi. Je vous assure, il y a vraiment des moments où on se croit en temps de guerre civile, quoi.
On voit effectivement des images assez, assez chaudes. D'ailleurs, on va lancer un appel. Hein, s'il y a des gens qui ont des sons, des photos et des images, évidemment, on les prend et on les diffusera dans les plus brefs délais. Donc, si vous avez quoi que ce soit qui puisse nous intéresser, on prendra. Et puis, on dira aussi un petit peu en guise de boutade qu'il n'y a pas que la gauche qui est saoulée par le mauvais rouge, il y a aussi nous. Et moi, tu m'enlèveras pas l'idée que justement, ce sont des gens. J'ai passé tout à l'heure le simple sujet, là, le zapping de Canal+, où il y avait Stevie, hein, qui disait que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des manifestants et surtout des jeunes dans la rue, et surtout en France. Où finalement c'est un petit peu la sortie du printemps, quoi. C'est une façon de fêter, c'est un peu votre carnaval à vous, quoi. C'est une façon de fêter les énergies nouvelles. Voilà. Donc il y aura toujours un petit peu ce petit là. Est-ce que si on veut obtenir quelque chose de concret, il serait pas temps, et je vais me faire un petit peu radical, c'est clair, de prendre les moyens, de se donner un peu les moyens de ses ambitions, style un peu Toulouse.
Alors, juste parce que
avec une poignée de types décidés, on peut y arriver.
Hein. Ouais, non mais c'est pas impossible. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est qu'en général, au printemps, on fait le grand ménage, et en France, on met le grand bordel, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Bon, non, si vous voulez, ce qui est vraiment dramatique dans cette affaire-là, c'est que ça prend une tournure ultra-violence. Et c'est vrai que, on a l'impression que la violence ne peut être que la seule et l'unique solution pour retourner en cours. Parce qu'on sait qu'en plus, aujourd'hui, on sait que, si vous voulez, c'est pas les universités bloquées qui vont faire avancer le schmilblick. C'est-à-dire que c'est pas le fait de bloquer une fac avec des barrières, avec des chaînes, etc., qui va faire reculer le gouvernement. S'ils l'ont pas compris, c'est qu'ils sont, franchement, ils sont idiots, là, aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que je pense aujourd'hui que les bloqueurs ne sont plus de bonne foi. Il y a eu des bloqueurs de bonne foi et je pense qu'aujourd'hui ils ne sont plus de bonne foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils bloquent pour bloquer, ils bloquent pour la glande. Enfin, je veux dire, je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que j'ai certainement des amis dans les gens qui bloquent aujourd'hui, malheureusement, heureusement. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent pas retourner en cours. Donc aujourd'hui, on sait que c'est les manifestations qui font tomber les mesures. On sait que c'est pas les blocages des facs, ça n'a jamais été ça. Ça ne sera jamais parce que c'est une mesure dictatoriale. Je veux dire, c'est la dictature d'une minorité. Donc voilà, ça ne sert à rien. Et le problème, c'est que, comme dans toute dictature, même si la majorité n'en pense pas moins, ce sera toujours une minorité qui va accepter de prendre le. C'est toujours pareil. Si vous avez dans une dictature, vous avez une minorité qui prend le pouvoir et qui met la pression sur l'ensemble des gens, l'ensemble des gens va être contre la dictature, mais très peu vont se mobiliser concrètement contre et vont résister. Donc, et là, c'est exactement ce qu'on retrouve. On est exactement là-dedans. On est dans une dictature réelle de ces minorités d'extrême gauche qui bloquent nos universités. Et de temps en temps, quand il y a un groupe suffisamment, j'ai envie de dire, convaincu du bien fondé de la violence pour récupérer son université, eh ben on gagne. Mais donc c'est quand même dommage, si vous voulez.
D'accord, je crois qu'on vient de recevoir un intervenant. Merci Roland pour ces explications. Alors, qui est en ligne? Bon, il est en ligne.
Je crois que c'est Sébastien.
Alors, Bon.
Ah oui, c'est pas.
Bon, ben, on le reprendra tout à l'heure, ma foi, tant pis pour lui. Alors oui, ben écoute, oui, une dictature, c'est clair, mais bon, on voit à la télévision beaucoup de gentils petits, ben, il faut le dire, de gentils petites mimi gauchistes, blondinettes, toutes sympathiques, comme ça, ça donne d'ailleurs assez envie d'aller refaire un petit tour à Paris, surtout au printemps d'ailleurs, on vous le cache pas. Elles sont là, bon, ça sent un petit peu le bouillon de culture, votre histoire. Et puis alors il y a quelques agités qui sont des professionnels de la du boxon, il y a rien à dire, je veux dire, le problème est vraiment là. Donc c'est un petit peu, à mon avis, la façon que les émeutiers de la banlieue ont trouvé de rentrer en ville. Enfin, moi, ouais. De Suisse, je vois vraiment une banlieusardisation de la chose.
Alors, le problème qui règne aujourd'hui, c'est que, en plus, ça c'est une affaire très compliquée, parce que vous avez des manifestations anti-CPE de toutes les catégories d'âge. Vous avez je veux dire sans aller jusqu'à l'école maternelle, hein, mais vous avez des manifestations anti-CPE des lycéens, vous avez des manifestations anti-CPE des étudiants, puis vous avez des manifestations anti-CPE des salariés. Bon. Moi, hier, nous avons décidé avec quatre camarades, plutôt résolus contre les blocages, d'aller voir ce qui se passait dans la manifestation anti-CPE de façon pacifique. On n'est pas fou au point de se mettre 5000 ou 6000 personnes à dos. Et puis surtout quand on connaît ces personnes-là. C'était une manifestation anti-CPE de lycéens, et ce qui fait peur, je vais essayer de vous retranscrire la terrible sensation que j'ai eue, c'est que c'est un monde qui est noir. Et je ne parle pas de la couleur de peau, évidemment. C'est un monde qui est noir, dans le sens où les gens sont en noir, ou c'est pas au noir, ou rouge.
Attention, là, tu sautes, on t'entend plus, hein. T'es là?
Vous m'entendez?
Ouais.
C'est bon, vous m'entendez? Mm-hmm. Oui, donc.
C'est les emails
si vous voulez, c'est une impression extrêmement, extrêmement violente qui ressurgit à chaque fois qu'on va dans ces manifestations.
Bon, bah, c'est le bon vieux coup classique de l'ado rebelle. Alors, c'est un type qui veut finalement, il veut tuer le père, il veut montrer qu'il existe en cassant des objets. Je sais qu'au Japon, ils font des espèces de parcs d'attractions où les gens peuvent aller casser de la vaisselle pour se détendre. On pourrait plutôt inventer genre de truc, ouais.
Ouais, ouais, il paraît même que ça existe pour les entreprises, ouais. Qu'après le boulot, on va péter des assiettes avec des pierres, que ça soulage. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la dérision, mais non, c'est vrai que, et puis j'ai vu des gamines, moi, hier. Des enfants. Des enfants qui ont 15 ans.
Alors, moi c'est ça qui me sidère, c'est le coup des lycéens. Alors, on voyait bien, je veux dire, on devine un petit peu, si on s'envoie un petit peu tous les extraits de ce qu'on peut voir dans la presse, les vidéos, etc. On sent qu'ils chauffent les assemblées, et puis ils attendent que les lycéens viennent, les lycéens qui n'ont rien à voir avec l'université, ils viennent voter, et ensuite on reprend les enfants, et on les amène dans une autre université pour continuer de faire voter. Donc, je veux dire, ces types-là se foutent royalement de la démocratie, mais leur système a quand même l'air, disons, assez intelligent au niveau de l'organisation. Donc, ça peut pas venir d'eux. Ça vient d'ailleurs, ça doit venir de certains partis d'extrême gauche, style LCR, etc., qui ont vraiment la pratique de ces méthodes. On a même vu sur Indie Media un petit manuel du révolutionnaire de Pavé, hein, comment le lancer, c'est vraiment, on dirait vraiment un manuel de gymnastique suédoise, c'est comment bien lancer son pavé, n'est-ce pas, et comment bien viser son CRS en évitant de blesser des manifestants. C'est hallucinant, donc c'est quand même organisé quelque part, et puis, bon, je veux dire, l'idée c'est que face à ça, le dialogue ne fonctionnera pas, ces gens-là n'ont pas l'air vraiment disposés à dialoguer. La démocratie s'en moque, puisque bon, ils manipulent les votes ou ils détruisent les urnes. Donc, si vous voulez reprendre les coups, ben, vous avez deux solutions. Vous avez ce qu'on a entendu dans le zapping, c'est des gens qui font l'université via internet sur un blog. Et à ce moment-là, chacun se claque mieux dans son bunker, et puis on suit les cours par l'université, puis il n'y aura plus d'étudiants, plus de vie universitaire, et plus jamais d'émeutes de ce point de vue-là. Ou alors, on met un coup de pied au train à cette poignée de gamins.
Alors,
plus je vois la chose, c'est facile de le dire de loin, dans la Suisse tranquille, etc., entre ces vaches et ces horloges qui font coucou, mais franchement...
Bah, écoutez, On a prévu, mais je vais peut-être vous paraître un peu faussement secret, mais on a parlé d'une autre solution avec un de mes amis ce matin. Bon, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que j'ai peur qu'il nous écoute. Et
nous, on voudrait bien au contraire qu'il nous écoute un peu.
Non, mais disons, si vous voulez, en résumé, c'est jouer à leur propre jeu. Et en gros, si vous voulez, ils disent qu'ils sont démocratiques, et ben alors utilisons leurs fausses armes démocrates, leurs fausses AG, etc. Et donc, enfin bon, je peux pas vraiment trop rentrer dans les détails, j'ai vraiment peur, si vous voulez, que ça... Mais on a parlé d'une solution concrète, qui soit pas la violence, mais qui soit en gros, honnêtement, de les faire chier jusqu'au bout. Comme eux, ils nous emmerdent tous les jours que Dieu fait, si vous voulez, et ben dans ce cas, de leur rendre l'appareil. Quitte à ne pas aller en cours, et ben autant pourrir leur truc le plus possible. Ils nous pourrissent la vie, ben à nous de leur pourrir la leur, quoi.
Ouais.
Donc, au moins, si vous voulez... Ça a l'avantage qu'il n'y a pas de violence, donc il n'y a pas de blessés. C'est un pied formidable, parce que je suis sûr qu'il y a un ressentiment qui monte depuis quelques semaines, là, phénoménal. Donc c'est une façon de se soulager aussi. Et puis c'est une façon en plus de tester ses qualités orales. Donc c'est quand même quelque chose. Non, mais donc, enfin bon, bref, je peux pas trop vous dire, ça a l'air un peu stupide, mais.
Bon, on se réjouit, parce que franchement, pour le moment, ils ont l'air plutôt de s'amuser de ces contre-manifestations. Et puis au niveau stratégique et militaire, ils sont quand même largement supérieurs. Donc.
C'est ce qu'on disait avec un de mes amis ce matin, qui s'appelle Florent, qui est donc régulièrement là sur mon blog. C'est qu'on on disait, ben oui, de toute façon, ces manifestations-là, c'est de la symbolique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un groupe irréductible que vous ne gagnerez jamais, messieurs les gauchistes. Et que ces gens-là, ils aiment tellement leur université, ils aiment tellement aller en cours, qui sont prêts à aller jusqu'à manifester dans la rue, ce qu'ils ne font jamais. Ils sont prêts à aller jusque là pour montrer que eux, ils aiment étudier. Et que peu importe qu'ils soient pour ou contre le CPE, qu'eux, ils veulent aller en cours. Et que c'est ça qui compte. Et qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent ressortir leur pavé de Marx, qu'ils peuvent ressortir leur poubelle, leur soi-disant démocratie.
C'est aussi la même situation que dans les années 60. Il y avait aussi un petit groupe d'irréductibles. Eh ben, ça n'a pas empêché les autres de faire leur beurre et d'avoir changé quand même radicalement la société. On voit quand même 40 ans plus tard, le phénomène de mai 68 n'était pas anodin, donc il y a quand même le danger que ça recommence. Et de façon presque aussi profonde.
Il y a quand même
les présidentielles dans quelques mois.
Bah de toute façon, je pense que ce sera le temps de sanctionner les gens qui sont impartis là-bas. Qui sont vraiment, que ce soit les JCR, le Parti Socialiste, etc., ce sera le temps de les sanctionner. Et j'espère, honnêtement, j'espère les sanctionner de cette façon-là. Bon, maintenant, j'espère qu'ils seront sanctionnés de cette façon-là. Maintenant, il faut rappeler en 68 qu'il n'y avait pas eu de mouvement étudiant ou lycéen contre, qui s'était mis autant en opposition ouvertement, je pense, peut-être aussi un peu par crainte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on avait un parti gaulliste extrêmement fort, beaucoup plus fort que l'UMP aujourd'hui, qui avait appelé une manifestation sur les Champs-Élysées, et ils avaient eu 1 million de personnes. Et là, si vous voulez, bah, on a l'impression que c'est pas possible à l'UMP, et là, on peut quand même en vouloir à quelqu'un, c'est monsieur Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, il dit, c'est super, si monsieur de Villepin se mange là, se prend toute la claque du CPE dans la figure au jour le jour, il sera imprésidentiable en 2007 et c'est moi qui vais gagner tous les honneurs. Et donc moi je m'assure en gros ma présidence. Bon, donc le problème est là. Le problème c'est qu'on n'a pas un parti gaulliste uni du tout. En 68 c'était tout le monde derrière De Gaulle. Enfin j'exagère, mais parce qu'il y a toujours des dissensions dans ce genre de parti, etc. Mais on a fait un mot d'ordre, on a dit on manifeste pour De Gaulle et contre cette espèce de grève générale qui est en train d'être lancée. Et on a gagné de cette façon-là. Là, c'est impossible. Si l'UMP appelle à manifester, ça ne marchera pas. Ce sera du flan.
Oui, parce qu'il n'y a plus une seule UMP. Roland, on va passer un petit disque et puis on prendra certains de nos auditeurs qui veulent intervenir. Ça te va ?
Très bien.
À tout de suite.
À tout de suite.
Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changin'. critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Alors nous sommes de retour sur appel que vous pouvez donc poser vos questions via l'interface Skype que vous trouvez sur simplement donc le site www.bafouet.com. Alors nous sommes toujours dans ces affaires de CPE. Faut-il continuer par la voie légale, c'est-à-dire demander des scrutins démocratiques qui n'auront jamais lieu parce que les opposants les bloquent, faire des recours au niveau judiciaire qui, même si on les gagne, ne donnent pas grand-chose puisque les présidents d'université finissent toujours par se coucher. On ne vous cache pas que le BAF est de plus en plus convaincu par une solution qui privilégierait, disons, un emploi modéré d'une certaine forme de force, pas de violence, puisque la violence est une passion, mais de force, parce que la force est une vertu, n'est-ce pas ? Bien, nous accueillons ici Laurent de l'UNI. L'UNI qui est plutôt un mouvement qui continue dans la veine légaliste pour obtenir finalement que le droit des étudiants leur soit rendu de suivre leurs cours dans leurs universités. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous en êtes où actuellement après presque un mois de lutte à l'UNI cette semaine ? On vous a eu la semaine dernière. C'était
ouais.
Pas, bon, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Est-ce que ça se passe mieux maintenant ? On avance ou en est-on ?
Il y a deux choses. La première chose, pour défendre le CPE et contre l'occupation ou le blocus des universités, ça avance peut-être pas à la vitesse où on le voudrait, mais ça avance. Vous savez, les gens de droite sont pas toujours très faciles à mobiliser et à faire entre guillemets descendre dans la rue. Et ceci dit, de plus en plus. Des rassemblements se font, des manifestations se font organisées par des gens qui sont pro-CPE ou contre les blocages, qu'ils soient proches de l'UNI ou pas d'ailleurs, et c'est en train d'essaimer en province, dans un certain nombre de villes, autres qu'à Paris, on voit ce genre de mobilisation s'opérer. Et puis, dans le même temps, cette semaine, il y a les élections au CROUS qui se déroulent. Encore demain et après-demain. Les élections au CROUS, pour expliquer, ce sont des élections qui permettent d'élire des représentants étudiants pour tout ce qui concerne les œuvres sociales étudiantes. c'est-à-dire les restos U, etc., le logement étudiant, les emplois pour les étudiants, voilà. Donc on est en plein dedans. Elles ont commencé hier, elles se poursuivront demain. Évidemment, les anti-CPE et les grévistes ont tout fait pour perturber le scrutin. Ceci dit, il s'est quand même déroulé.
D'accord, mais bon, je veux dire, est-ce que c'est une réelle incidence sur ce qui se passe maintenant ? Parce que les œuvres sociales, bon, c'est une chose, mais est-ce que, par exemple, au niveau de la représentation démocratique estudiantine, ça a une réelle influence ? Est-ce que c'est vraiment ça qui va jouer dans la balance, ou est-ce que c'est un petit truc annexe, une cerise sur le gâteau du CPE ?
Disons que c'est un moyen de juger des forces en présence. Voilà. Donc, et puis surtout, ça a un autre avantage. Ça montre vraiment le visage des anti-CPE et des grévistes.
Alors, justement, parce qu'en clair, en parlons-en, alors je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'ils se sont opposés ? Est-ce qu'ils ont tapé des gens, brisé les urnes ?
Alors, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été commises. Donc, le vol d'urne a été un sport national pour les gens de l'UNEF et de la CNT. Le vol de liste d'émargement aussi, ou le versage de jus d'orange dans les urnes. Ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient réellement faire capoter le scrutin. Or, c'est pas le cas à ce jour.
C'est effrayant, quoi, qu'ils en viennent là, quoi. Donc des membres de l'UNEF.
Oui, mais ce qui montre bien qu'ils sont coincés dans une impasse et que ils sont obligés de radicaliser leur mouvement vers plus de violence, vers une utilisation de la partie la plus extrême de la gauche sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Et on l'a vu notamment à Nation, où un syndicaliste sud est décédé suite à la charge de CRS. Alors l'enquête est en cours. Il est dans le coma.
D'accord.
Il est dans le coma. L'enquête est en cours, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il avait quelque chose comme près de 3 grammes d'alcool dans le sang, ouais. Et qu'à plusieurs reprises au cours de la manifestation, il avait été ramassé par notamment les pompiers. Voilà. Aujourd'hui, un étudiant qui occupait une université est aussi décédé. Par contre, lui, il est décédé.
Ah, il y a eu un.
Ouais, parmi les bloqueurs, mort. Enfin, l'autopsie n'a pas encore eu lieu, mais d'après les éléments dont on dispose, il était à la fois très alcoolisé et il avait pris certaines substances, on va dire interdites. En clair, il a fait vraisemblablement une overdose à la fois de drogue et d'alcool.
Aïe, aïe, aïe. Et ça s'est passé où, ça?
C'est à Marc Bloch à Strasbourg.
Oh là, c'est gay. Donc il s'est pas fait taper dessus, quoi.
Absolument pas. Non. Il n'y a pas eu. Alors ça pose une autre question. Le truc, c'est que maintenant, on se rend compte que dans les facs bloquées, entre guillemets, c'est allons-y gaiement, quoi. Je veux dire, c'est drogue dure, etc., qui circulent sans aucun contrôle. Les présidents d'université devront prendre leur responsabilité par rapport à ça.
D'accord.
Et ceci dit, dans d'autres endroits, dans la plupart des endroits, le vote pour le CROUS s'est déroulé de manière relativement calme, avec quelques anecdotes, comme dans une école d'ingénieurs à Metz, où le directeur de l'établissement a fait appel à l'équipe de rugby de l'école pour tenir les bureaux de vote. Et ce qui fait que les gens de la CNT qui ne le savaient pas ont essayé de façon, ont pénétré dans les bureaux de vote de cette école d'ingénieurs et ont été reçus par un pack assez impressionnant, semble-t-il, d'après les échos qu'on a eus.
Mais alors, la CNT, c'est quoi? C'est un groupe.
La CNT, c'est en fait. Alors, c'est la CNT, c'est des anarchistes.
D'accord.
Mais qui sont très présents dans la lutte contre le CPE. En fait, l'UNEF est confronté à un problème, c'est que depuis le mois de janvier, le mouvement prenait assez mal. Donc, ils n'ont trouvé pour moi seul moyen de faire prendre le mouvement au sein de l'université que de s'adjoindre les services qui, de la CNT, donc les anarchistes, qui de la Ligue communiste révolutionnaire et de ses émanations, enfin qui de la partie la plus extrême de la gauche. Le problème, c'est qu'on est face à des gens qui, encore une fois, sont pas forcément faciles à contrôler pour les socialistes et le syndicat étudiant qui est l'émanation du Parti socialiste qui est l'UNEF. Et on en arrive à des situations telles que celle-ci. Et alors évidemment.
Est-ce que les types de la CNT sont des gens vraiment très très formés, qui savent, je sais pas, bouger en quinconce, qui au niveau stratégique savent tenir une manifestation? Est-ce que c'est les types vraiment, ou là, c'est juste des casseurs qui balancent des coups de pied avec des Doc Martens?
Tenir une manifestation, je pense que ça n'a jamais été leur réelle envie ni leur rôle. Par contre, faire dégénérer une manifestation en confrontation avec la police, là-dessus ils sont très forts. Pour noyauter des AG, etc., ils le sont aussi. Mais on a la plupart, je dirais même 99% des AG, des assemblées générales étudiantes qui ont eu lieu en France et qui ont demandé qui le blocus, qui la grève, qui le retrait du CPE, étaient toutes composées essentiellement de gens extérieurs aux universités, dont des gens issus de syndicats dits ouvriers tels que la CGT, Force ouvrière, Sud, et j'en passe.
Bon, moi je trouve que le cas de l'équipe le coup de l'équipe de rugby sera rejoué un peu plus souvent. Enfin, j'avais donc Sébastien Bordman la semaine dernière donc de l'UNI qui nous disait oui, l'UNI essaie de jouer la légalité, le vote et tout, etc. Et le lendemain, enfin quelques heures après, c'était des gens de l'UNI, je crois, qui ont libéré Toulouse.
Ah, ils n'étaient pas de l'UNI.
D'accord.
C'est ce qui s'est dit dans certains journaux, mais ils n'étaient pas de l'UNI.
Enfin, l'idée est quand même intéressante, ouais.
Nous on reste sur cette ligne là parce que pour deux raisons. La première, c'est parce que de toute façon c'est une guerre d'usure, et d'autre part ça a une fonction pédagogique parce que ça montre réellement le vrai visage de la gauche. Et en France, beaucoup de gens voyaient d'un côté assez sympathique le candidat de la Ligue communiste révolutionnaire, Olivier Besancenot, se présenter aux élections, ou Arlette Laguiller, ou les anarchistes avec leur côté un peu milieu du maître. Exactement, exactement. Là, on se rend compte réellement de ce que c'est. Et
mais ils ont la presse derrière, tu sais, ça peut durer 50 ans comme ça, je veux dire. Ils
sont. Ouais, mais c'est en train de basculer vraiment. Violents. C'est vraiment en train. Malheureusement, on peut pas revenir comme ça. Vous savez, mais ça fait 20 ans que face à la moindre manifestation étudiante ou lycéenne, que ce soit d'ailleurs de droite ou de gauche, les projets sont retirés. On va pas en une semaine inverser la tendance. Ça, c'est évident. Je prendrai comme exemple les réformes qui ont été menées en Grande-Bretagne sous l'ère Thatcher. En particulier les conflits des mineurs qui avaient duré plusieurs mois, qui étaient très durs. Si Margaret Thatcher à cette époque-là n'avait pas tenu, Tony Blair aujourd'hui, qui n'est pourtant pas du même bord, n'aurait certainement pas pu faire la politique qu'il a menée en Grande-Bretagne et quasiment amener la Grande-Bretagne à avoir un chiffre de chômage proche de zéro et conduire la Grande-Bretagne à être en situation de plein emploi. Donc nous non plus en France, on va pas arriver en 2-3 semaines à faire changer les mentalités ici. C'est clair. Qu'on use de la violence ou de la force ou pas. En l'espèce, nous avons un Premier ministre qui use de la force, et pas seulement de la force physique, mais de la force de conviction, et qui tient. Nous, on est derrière.
Mais vous êtes vraiment convaincu par le CPE? Est-ce que c'était une fausse bonne idée, un peu mal ficelée et
C'est pas une fausse bonne idée, c'est même une très bonne idée. C'est même tellement une bonne idée que d'ailleurs c'est même pas une idée de droite ou de gauche, puisque Romano Prodi dans sa plateforme politique en Italie la propose. Elle existe en Espagne, elle existe aussi sous une autre forme en Grande-Bretagne, elle existe aussi sous une autre forme en Allemagne, où ils sont en train de passer les périodes d'essai de 6 mois à 2 ans également, et c'est la solution pour permettre aux jeunes de moins de 26 ans d'avoir accès à un vrai job durable dans lequel ils puissent poursuivre leur formation au sein d'une entreprise et commencer leur carrière professionnelle, globalement au niveau du droit du travail pur.
Mais est-ce que c'est pas une façon de laisser peut-être un petit peu trop la bride sur le coup de certaines entreprises? Et puis ça peut mener quand même à certains excès. Et puis effectivement, au niveau de la situation des étudiants, on peut comprendre certaines inquiétudes peut-être, non?
Moi, je vais vous dire, j'écoutais il y a 3 jours une interview qui avait été faite en région parisienne, dans les mêmes endroits qui avaient brûlé il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu des émeutes en banlieue parisienne assez sévères au mois de novembre dernier. Et ces mêmes jeunes donc qui avaient participé entre guillemets aux émeutes disaient mais 2 ans de période d'essai, mais même 10 on prend. Parce qu'aujourd'hui eux, ils sont sur une voie de garage, ils ne trouvent pas de job, ils ne trouvent pas d'entreprise pour les embaucher. Alors qu'avec un CPE, les chefs d'entreprise n'hésiteront pas à prendre le risque de prendre quelqu'un.
Mais comment vous expliquez la situation actuelle de la France? Parce qu'on a l'impression que vraiment vous êtes prêt à ramasser n'importe quoi pour vous sortir d'une situation qui est franchement mauvaise.
Vous parlez de quoi? Économique?
La situation économique de la France, ça ressemble quelque part à un début de tiers-mondisation.
C'est un peu exagéré. Non, disons que sur les deux côtés de la sphère, on va dire, de l'emploi, que ce soit pour les jeunes ou pour les plus de 50 ans, on a un vrai problème en France, parce que finalement le code du travail, c'est un peu le code du chômage. Ça ne permet pas de résoudre le problème du chômage des jeunes et à la fois des plus anciens. Et avec un contrat tel que le CPE ou le CNE qui a été mis en place il y a quelques temps déjà, on apporte une vraie bonne solution, parce qu'encore une fois, à chaque fois, il s'agit de CDI et non pas de CDD, et que ça permet de donner du temps, tant pour l'employé que pour l'employeur, même si la période d'essai est plus longue. Mais le code du travail, encore une fois, s'applique et la protection du salarié est la même.
D'accord. Roland et Laurent, maintenant j'aimerais vous demander un petit peu comment est-ce que les choses, selon vous, vont évoluer. On va essayer de faire un petit peu l'extrapolation. Politiquement, avec la probabilité du mauvais temps et le printemps qui débute, les vacances qui risquent de sauter, vous qui connaissez un petit peu la situation en France, qu'est-ce qui va se passer? Alors Roland, peut-être pour commencer.
En ce qui me concerne, je suis complètement dans l'expectative. Ce que j'espère simplement, c'est que notre année ne soit pas complètement gâchée. Le problème, c'est pour qu'elle ne soit plus gâchée, il faudrait, on le sait aujourd'hui, pour rattraper et éviter qu'on ait des partiels sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'ils soient sur 5 ou 6 semaines de cours. Il faudrait que les cours continuent d'avoir lieu en juin et peut-être même une partie de juillet. Ce qui veut dire qu'on aurait des partiels mi ou fin juillet. Et donc, ce qui veut dire quand même que ça remet en cause, d'une part, non seulement les vacances, mais aussi, il faut savoir quand même qu'il y a énormément d'étudiants qui travaillent l'été. Donc, ça brise quand même un certain nombre de velléités de travailler pour l'été. Donc, moi, honnêtement, je sais pas, je vous dis, moi, personnellement, maintenant, on attend. On fait ce qu'on peut dans les manifestations ou dans les manifestations. Hier, on a fait ce qu'on a pu. Bon, voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai que je fais partie d'un groupe de gens qui vont en avoir marre et qui vont peut-être en avoir assez d'attendre gentiment que tout ça se passe. Alors, c'est vrai qu'après, on essaie de faire en sorte de prendre des contacts un peu avec tout le monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, on sait pas trop quoi faire. C'est pour ça, moi, c'est ce que j'avais rappelé, c'est que je trouvais que le soutien, moi, qui suis pas syndical uni, je trouvais que le soutien des gens comme ceux de l'Uni était précieux parce que on a besoin de gens qui justement ont des alternatives, ont des propositions claires et nettes, et puis tout simplement ont des moyens de faire bouger les choses. Même si, on a vu, par exemple, à Grenoble, le recours au tribunal administratif, n'a pas pour l'instant payé, c'est vrai que comme tu le disais très bien, Laurent, c'est une base. Alors après, il faut voir aussi, le problème, c'est aussi la mollesse des présidents de l'université qui refusent de faire respecter la tenue des cours, etc. Mais bon, non, on attend, on fait ce qu'on peut. Là, on est dans une perspective maintenant de tentative de pourrissement de leur mouvement, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On attend que ça s'essouffle aussi. Enfin, je ne sais pas ce que va en dire Laurent, mais moi, c'est vrai que c'est plutôt ça. Il y a une guerre d'usure, donc on attend de voir qui va lâcher en premier. Et je pense honnêtement pas, du moins je l'espère, que ce soit le chef du gouvernement qui cède en premier.
Mais tu parles de guerre d'usure, mais tu as l'air quand même un peu usé toi-même. On sent quand même.
Oui, bah, forcément. Gros coup de ligne,
ouais. Ouais. Enfin, il faut quand même. Donc, c'est peut-être à l'UNI de vouloir redonner un petit peu d'espoir au mouvement anti-blocage, Laurent.
Ah bah, oui, mais clairement aujourd'hui, chaque étudiant qui veut faire quelque chose contre les grèves, qu'il soit pro ou enfin pour ou contre le CPE, à la limite, la question ne se pose pas en ces termes, mais qui veut se battre contre les blocages et les grèves, nous on est prêt à lui apporter notre aide, notre logistique et nos moyens humains et militants, mais il faut vraiment que les étudiants se mobilisent. Parce que il faut dépasser le stade de la majorité silencieuse qui subit. On sait très bien qu'avec 500 étudiants sur une ville comme Paris, on arrive à bloquer toutes les universités.
On vous attend là-dessus, alors.
Voilà. Mais il faut aussi que les étudiants qui sont contre les blocages prennent aussi les choses en main et voilà, parce que on ne peut pas faire tout seul, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est important, c'est vraiment important. Alors jusqu'à maintenant, il est vrai aussi, encore une fois, que les étudiants bloqueurs avaient pas trop montré leur visage tel qu'il était, et depuis quelques jours, là vraiment, il n'y a plus de doute. Donc les étudiants aujourd'hui ont devant les yeux ce qui est vraiment ce qui a vraiment derrière l'UNEF et puis les autres groupuscules qui bloquent les universités. Donc il faut vraiment qu'ils se mobilisent, et justement ce que vous disiez est très juste, pas par la violence mais par la force, parce que si vous avez une trentaine de mecs cagoulés qui déboulent dans les facs, qui pour bloquer ou qui pour perturber, etc. Si vous avez une centaine d'étudiants qui sont devant eux sans faire acte de violence, mais qui leur disent barrez-vous, les types reviendront pas. C'est ce qui risque de se passer dans une université comme Lyon 3, où une AG a voté la grève, non pas le blocage mais la grève, et le président de l'université a proposé a accepté d'ouvrir l'université Lyon 3 aux non-étudiants de Lyon 3, je peux vous garantir que quand l'UNEF, la CNT, Sud, etc. vont se pointer à Lyon 3 face aux étudiants de Lyon 3, ils vont être reçus.
Mais
ce sera pas forcément par la violence, ce sera tout simplement par le nombre. Parce qu'il y a une écrasante majorité d'étudiants de Lyon 3 qui sont contre ça. Et pour les raisons qu'expliquait Roland, c'est que beaucoup d'étudiants bossent l'été. Parce que dans certains cas, c'est une vraie nécessité liée au fait que il faut bien payer les loyers et la bouffe. Et dans d'autres cas, c'est ce qui leur permet de s'offrir des loisirs, etc. Parce qu'ils ont la chance d'avoir des parents qui, eux, peuvent leur payer leurs études. Donc vous imaginez si les examens, effectivement, sont reportés en courant d'été, voire en septembre, il va falloir bachoter pendant la période estivale. Et croyez-moi, les profs de fac qui jouent le jeu des bloqueurs, eux, ils iront se faire dorer la pilule au soleil pendant l'été, pendant que leurs étudiants seront en train de bachoter, parce que eux n'ont pas pris leurs responsabilités. Et du reste, quand on regarde la composition de la conférence des présidents d'université, où l'écrasante majorité d'entre eux est engagée, notamment au sein du Parti socialiste, eux, ils sont en train de préparer l'élection présidentielle à bon compte, hein, avec ça.
D'accord.
Mais disons-moi, il y a clairement une arrière-pensée politique de la part de la gauche, mais qui ferait bien de faire attention, parce qu'elle est en train de se faire déborder par son extrême et qu'elle perd le contrôle. Elle perd le contrôle, et les Français qui sont un peu, qui ont tendance toujours à être un peu attentistes, etc., commencent vraiment à prendre conscience de ce qu'est la situation et prendre conscience de qui est qui. Alors le problème, c'est qu'on peut, malheureusement, nous, on le dit, on le répète, on est présent sur le terrain, Roland aussi le fait de son côté, etc. mais on n'a pas la caisse de résonance que peuvent avoir les autres. C'est évident. Quand vous ouvrez la presse française ces jours derniers, vous vous demandez si les journalistes quittent de temps en temps leur rédaction et font autre chose que d'appeler l'UNEF pour se faire dicter leur communiqué de presse. Alors que quand vous lisez la presse, ne serait-ce qu'européenne, c'est flagrant. Ouais. Faites une revue de presse européenne, et d'une, c'est l'incompréhension, parce que personne ne comprend pourquoi les gens sont contre le CPE, et de deux, c'est, enfin, j'allais dire quelque part, c'est de l'amusement, parce qu'ils se disent, une fois de plus, les mecs sont dans la rue, quoi. Pourquoi? Ils savent pas.
Ben, je vous dirais, en tout cas, en Suisse, à part quelques feuilles de gauche, on a cessé d'en parler depuis un bon moment, quoi. Je veux dire, de temps en temps, dans les hebdomadaires, il y a une photo d'un flic qui tape. Non, je pense avec l'histoire Ferrez, on va en avoir un petit peu de nouveau. Mais bon, ouais. Effectivement, les gens comprennent mal, enfin comprennent qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre plutôt, et puis qu'à la longue, voilà, quoi, c'est un petit peu problème français.
Mais ce qui est clair, c'est malheureux de le dire, mais encore une fois, ça fait trop longtemps que des réformes indispensables ne peuvent pas intervenir parce que on écoute la rue et qui représente finalement très très peu de gens. Parce que si vous prenez les chiffres, par exemple, des participations aux manifestations étudiantes qui sont intervenues contre le CPE, c'est la plus faible participation qu'on a eue depuis 20 ans.
Mais c'est des gens qui bougent quand même. Par rapport à
oui, mais ils bougent de moins en moins, ils sont de moins en moins nombreux. Le truc, c'est qu'évidemment, c'est monté en épingle. Mais c'est pour ça que, malheureusement, c'est la montre qui joue là. Mais si le Premier ministre tient, comme il a l'air de tenir, je pense qu'au-delà du CPE, ça ouvre une ère de réformes importantes en France, et en particulier en ce qui concerne l'enseignement supérieur, où il y aurait fort à faire.
En fait, ce qu'il vous faudrait, c'est un droit de référendum populaire. Donc les gens réuniraient 1 million de signatures et à ce moment-là, le peuple devrait voter sur le CPE.
Mais ça résoudrait quand même la question.
Voilà, vous voyez, la démocratie suisse vient résoudre les problèmes du monde entier. On envoie même des politiciens en Irak pour faire une constitution, c'est vous dire.
le problème de la question qui serait posée, c'est de savoir est-ce qu'on serait pour le retrait ou pour la modification du texte. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a eu un référendum qui n'a pas longtemps été fait, où il y avait 73% des gens qui étaient contre le CPE, dont 38% pour la modification du texte et 35% contre, c'est-à-dire totalement contre, pour le retrait. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, même si on fait un référendum, il faudrait être extrêmement fin dans la question pour éviter de se faire taxer comme nous on l'est dans nos référendums universitaires et donc dans les AG non démocratiques, etc., d'absence de démocratie, etc. C'est ça la vraie question. Après, est-ce que vraiment ça résoudrait le problème? Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas contre spécifiquement ce pays, par contre, sont pour l'aménager. Et on sait qu'il y a eu des aménagements proposés, que la période d'essai de 2 ans soit ramenée à 1 an, qu'on soit obligé de donner un motif, etc. Bon, après, c'est...
Oui. Est-ce que vous pensez que ça va être ça la solution? Est-ce que finalement Villepin va plutôt couper la poire en deux et se résoudre à une version modifiée?
Il l'a dit d'ailleurs, il l'a annoncé aujourd'hui aux questions, lors des questions au gouvernement. De toute façon, il y aura des pourparlers par branche d'activité. C'est prévu. C'est-à-dire le texte en lui-même, dans les détails, reste à être étudié, si vous voulez. Mais dans la philosophie et sur le fond, il faut le conserver en l'état. C'est dans son mode d'application qu'il y a des choses à voir. Mais ça se fait avec effectivement ce qu'on appelle en France les partenaires sociaux et dans des logiques de branches d'activité. Parce qu'il est clair que l'application ne sera pas la même si on parle d'hôtellerie ou si on parle de métallurgie ou si on parle de bâtiments ou de services. C'est évident.
Et ça risque pas d'être considéré comme une reculade? Est-ce que la gauche va pas crier la victoire si...
Mais non, parce que le texte a été voté par des parlementaires, dont je rappelle quand même que les parlementaires sont élus par les citoyens français au suffrage universel direct, et qui sont tout simplement les représentants des citoyens à l'Assemblée nationale. Et en ce qui concerne les grands électeurs, pour les sénateurs, c'est la même chose. Donc la démocratie s'applique. Il y a, c'est, c'est, c'est il y a des élections dans un an. Jack Lang, qui est socialiste et qui désespère de ne pas pouvoir être candidat de la gauche aux prochaines présidentielles, a annoncé clairement que si lui était élu président de la République, ou si la gauche l'emportait, il supprimait le CPE. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à partir de ce moment-là, la démocratie s'applique tout à fait normalement. C'est-à-dire, Dominique de Villepin est là-dessus totalement en ligne.
Ok. On va passer peut-être un petit peu à autre chose. Dans le zapping de Canal+, qu'on a diffusé au début, il y avait donc cette initiative de deux étudiants qui ont, qui passent leur temps maintenant à diffuser les cours de leurs professeurs sur Internet. Vous pensez quoi de ça, vous deux ?
Ouais. Ça peut être une solution, hein. En attendant que les cours puissent reprendre de manière normale.
Et est-ce que l'UNI pourrait pas s'occuper d'organiser un petit peu ce type de résistance quelque part ?
Nous, on peut, dans les faits, sur le principe, pourquoi pas. Après, faut voir comment c'est réalisable. Moi, je sais que plusieurs profs d'université l'ont déjà fait sur leur blog personnel, etc. Diffusent leurs cours sur Internet. Le e-learning, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps et qui fonctionne. Mm-hmm. Donc pourquoi pas ? Ça peut résoudre en tout cas une partie du problème, c'est évident. Et ceci dit, je rappelle quand même que même si les universités sont bloquées, même si les premières décisions de tribunaux administratifs sont en train de tomber quant au lever des blocages, etc., les présidents d'universités ont l'obligation de fournir des locaux pour que les cours aient lieu, quels qu'ils soient. Or, on a fait un test, nous, à l'UNI, pour savoir dans quelles circonstances c'était possible. Prenez ne serait-ce qu'une ville comme Paris, entre les locaux qui appartiennent à la ville de Paris, les locaux qui appartiennent au conseil régional de Paris, les locaux qui appartiennent aux diverses administrations, on peut le faire dans des conditions de sécurité tout à fait normales, et les cours peuvent reprendre. C'est vraiment,
il y a des
solutions alternatives d'urgence qu'on peut mettre en place dès l'instant où les présidents prennent leurs responsabilités.
Il y aurait des locaux vides comme ça de réserve en cas d'émeute.
Mais il y a, vous savez, quand vous avez une inondation comme ça arrive parfois dans certaines régions de France et que pendant plusieurs jours il faut accueillir des sinistrés, on trouve les locaux, hein. C'est D'accord. une situation d'urgence, c'est pas une situation qui est censée perdurer.
Ok. En tout cas,
donc des locaux, il y en a. Hein.
En cas d'organisation du e-learning, le BAF est tout à fait disposé à vous prêter son serveur.
Eh bien, écoutez, possible, on vous tiendra informé si le e-learning se met en place de manière massive. On fera appel à toutes les bonnes volontés.
Ouais, on aura droit à des hackers de la CNT qui viendront. C'est quand même une
On aura des contre-hackers de l'UNI, et voilà. Pas seulement de l'UNI d'ailleurs, des étudiants. Je suis sûr qu'il y a des étudiants en informatique qui sont contre les blocages, qui seront prêts à nous donner un coup de main là-dessus et à nous faire partager leurs compétences en la matière.
Et niveau Internet, je ne sais pas si toi, Roland, sur ton blog ou Laurent, sur le site de l'UNI, vous avez eu droit à des réactions hostiles ou d'adversaires. Est-ce qu'il y a, sinon un dialogue, une espèce de réaction de ce point de vue-là, ou ça se passe uniquement dans la rue ? Roland ?
Ah. Oui, ta question, c'est par rapport aux gens qui sont anti-CPE, tu veux dire, sur des réactions sur le blog ?
Est-ce qu'ils réagissent ou est-ce qu'ils attaquent ?
Alors, j'ai des gens qui réagissent, la plupart des gens, de toute façon, qui sont contre le CPE et donc qui manifestent, sont agressifs, parfois même injurieux. Je me suis fait traiter de jaune en fait sur mon blog, parce qu'en fait, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que le jaune, c'est le syndicaliste qui est contre la grève et contre toute action de force.
Ah,
étant donné que jusqu'à novembre, enfin jusqu'à octobre-novembre, j'étais militant à l'UNEF. Disons qu'en plus, alors maintenant que j'ai changé d'opinion, d'idée, d'orientation, etc. C'est vrai que c'est encore pire, parce que je suis un jaune et un traître en plus. Donc là, c'est. Mais donc voilà. Donc du coup, oui, non, c'est vrai que c'est. Les réactions sont pas. C'est pas un débat. Mais de toute façon, il n'en a jamais été question. D'accord. Je veux dire, enfin, faut être honnête. Le débat n'a jamais eu lieu réellement. Je veux dire entre les anti-CPE et les pro-CPE. Et du coup, par voie de fait, il n'a jamais eu lieu entre ceux qui étaient pour le blocage et contre le blocage. Ça n'a jamais eu lieu. C'est une farce de prétendre le contraire. Les AG, c'est pas des débats. C'est pendant. Vous avez tous les gens qui sont contre les blocages, qui vont vous dire, mais oui, mais c'est incroyable qu'on n'ait pas cours. Et à chaque fois, vous avez les gens qui sont pour les blocages qui vont dire, c'est pas le vrai débat, parlons du CPE. Et le CPE, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc finalement, on n'a jamais eu de débat. C'est une blague. Donc, et les gens le montrent encore aujourd'hui. Quand vous allez dans une manifestation d'étudiants ou de lycéens, alors c'est encore plus criant chez les lycéens, mais c'est aussi, c'est également vrai sur les, dans les manifestations d'étudiants anti-CPE. Il y a, vous trouverez un étudiant sur, je rigole pas, hein, et à mon avis même les proportions sont en dessous, mais vous avez un étudiant sur 1000 qui a lu le texte. Ne serait-ce qu'y aller sur la page, du journal officiel de l'Assemblée nationale, pour au moins ne serait-ce que prendre connaissance, regarder les premières lignes. Vous en avez un sur 1000. Et à mon avis, je suis en dessous de la réalité. Donc,
C'est complètement vrai, ce que dit Roland.
Oui, Laurent.
Je disais, c'est complètement vrai ce que dit Roland. On est allé voir, avec notamment Sébastien, que vous avez eu la semaine dernière, sur les sites de l'INEF et puis des autres, et on a cherché de l'info sur le CPE, ne serait-ce qu'une info comparative. Le texte, et puis la contre-proposition ou la critique. Mais je cherche encore.
Et vous chercherez longtemps.
Il faut dire que bon,
je chercherai
l'UNEF,
exactement, chercherai longtemps. Tout ça est un prétexte. Faut pas l'oublier, hein. Ça aurait été n'importe quoi. On aurait réformé la loi sur les voitures en disant qu'on allait passer de 4 à 3 roues. C'était pareil.
Bah, de dire, on le voit bien. Oui, non, vas-y.
Non, je t'en prie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, là, c'est mon expérience personnelle qui fait ça, mais j'ai été quand même à l'UNEF un certain nombre de temps, et vous avez une frange dans l'UNEF qui clairement, si vous voulez, n'attendait que ça. C'est la frange extrémiste, et elle n'attendait que ça. Alors, on a eu la loi Fillon, avant il y a eu le LMD, avant il y avait machin, avant il y avait la loi sur la traite, il y a eu le statut des salariés. Il y a toujours une bonne raison pour la grève générale, qui suggère, c'est le but ultime, le jour, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais si un jour il y a la grève générale décrétée par l'ensemble des partenaires sociaux, je veux dire, c'est une jouissance pour les jeunesses communistes révolutionnaires phénoménale. Et d'ailleurs, ils y appellent déjà. Vous avez dans le Figaro d'hier, c'est très typé, hein, comme lecture, c'est un journal quand même.
Ouais.
C'est un journal plutôt de droite, qu'on pourrait dire plutôt de droite, où on disait que la coordination nationale étudiante, c'est le titre, la coordination nationale étudiante veut jouer la surenchère, parce que c'est la seule, c'est-à-dire la coordination nationale qui est issue des assemblées générales non démocratiques, elle a fait 16 heures d'assemblée générale hier. Donc, je sais pas si vous imaginez la lourdeur des débats au bout de 16 heures. Et donc, au bout de 16 heures, on a dit, on décrète la grève générale. Sans même l'avis avec les syndicats, ni que ce soit étudiants, patronaux, de salariés ou je sais pas quoi. Donc, en fait, on est dans un système de délire total qui prend simplement une importance, parce que les médias lui donnent, hein, honnêtement, c'est tout. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qu'ils cherchent depuis le début, que ce soit la CNT, ils cherchent le chaos, ils cherchent à renverser le gouvernement, et je veux dire, je pèse mes mots, et voilà, c'est tout. Alors après, on peut raconter, c'est vrai ce qu'on veut, mais donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un moment où les gens en ont marre, ils utilisent la violence, ils se disent, on va les taper, ces enfoirés, on va prendre notre fac, parce que nous, on veut aller en cours, et eux, ils veulent la grève générale, depuis des années, c'est comme ça. Des années, moi, j'ai été un an et demi militant de l'UNEF, un an et demi, que tous les lundis où il y avait le collectif de l'UNEF, tous les lundis j'avais on veut la grève générale pour telle raison, parce qu'il y a tel étudiant étranger qui n'a pas été accepté en cours, parce que je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours une bonne raison de toute façon pour aller chercher ça.
Ces heures d'AG pour des crypto-staliniens, moi je trouve ça plutôt en ligne par rapport au discours que peut faire un Staline ou un Fidel Castro. Hein.
On ne peut pas raisonner.
Ouais.
Ceci dit, il y a un truc qui est complètement vrai, et Roland a parfaitement raison, en plus il sait très bien de quoi il parle parce qu'il a été militant à l'UNEF, c'est que l'actuel président de l'UNEF, Julliard, lui, il prépare sa carrière politique à venir.
Ouais, mais franchement,
en faisant ce qu'il fait.
Alors,
je vais
vous
raconter une anecdote amusante.
Oui.
Par rapport à lui, la mère du président de l'UNEF est maire socialiste d'une commune en France qui s'appelle le Puy-en-Velay, qui est en Haute-Loire.
D'accord.
Et il y avait, la semaine dernière, des lycéens qui ont bloqué un rond-point. parce qu'ils étaient contre le CPE. La mère de Julliard, donc, qui est maire de cette commune, est arrivée au volant de sa voiture, furibarde, en leur demandant de bien vouloir dégager, qu'ils empêchaient les gens d'aller travailler et qu'ils empêchaient les employés municipaux de faire leur boulot.
Ouais, des socialistes comme ça, on les aime bien. Ouais.
Voilà. Et en même temps, son fils, lui, joue la surenchère, le blocage, machin. Pourquoi ? Parce qu'il rêve. Il rêve d'être le Julien Drette demain, qu'il rêve d'être député demain, etc. Et qu'il est en train de préparer son petit CV au sein du Parti Socialiste. Voilà, tout simplement.
Bon, alors, franchement, parlons de lui.
C'est ce que je dis.
Parlons de lui, il ressemble à rien, ce type. Il a une tête de petit-fils de bourgeois bien rangé comme ça, franchement. Même Cohn-Bendit avait l'air beaucoup plus drôle, quoi. Celui-là, il ressemble à rien, quoi. Il est triste et renfrogné, quoi.
Quitte à être un gauchiste, autant ressembler à un gauchiste.
Ouais, franchement, autant avoir une belle gueule, un petit peu de barbe et puis un béret sur la tête, mais là, rien, quoi, franchement. Bah, il y a une nana qui a l'air déjà beaucoup plus marrante, je sais plus avec qui elle bosse, mais on l'a eu. Elle était dans le vrai journal et on la voit un peu partout, une fille.
Julie Coury.
Ouais, bah c'est bon, au moins elle est pas mal, celle-là, au moins elle fait pas mal aux yeux, tandis que Julliard, franchement, il est même pas moche, quoi, il ressemble à rien. Enfin, nous en Suisse, il y a des gueules plus typées, quoi. Déjà, Ferrez, là, il a Ferrez avec 2,7 g dans le sang, il a déjà une tête un peu plus romantique que ce Julliard, franchement. Comment est-ce que des étudiants
non,
peuvent
le,
suivre
le problème de Julliard, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent. Moi, je l'ai rencontré personnellement, c'est pas du tout un idiot. Le problème de Bruno Julliard, et je pense que c'est assez bien senti là par ce que dit Laurent, c'est que c'est quelqu'un, parce que quand on est président de l'UNEF, on prépare clairement une carrière politique nationale, que ce soit au Parti Socialiste ou au Parti Socialiste. Donc voilà, donc du coup, le truc c'est que je pense que c'est ça, il prépare sa carrière. Ce qui est dommage, c'est que son prédécesseur Yasser Fichtali n'avait pas eu besoin de ça pour préparer sa carrière. Son prédécesseur, on sait qu'un jour il fera de la politique, c'est un type brillant. Bon, alors qui a ses idées, hein, je veux dire, c'est quelqu'un de gauche, clairement, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui avait une autre envergure. Je peux pas... Moi, j'ai rencontré les deux, je vous assure, il y avait vraiment pas photo. Bon, par contre, peut-être que Julliard est plus intelligent dans le fond, etc., mais dans la forme, Fichtali avait quand même claqué vachement plus, quoi. Mais donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que finalement, même l'UNEF va jusqu'à instrumentaliser finalement cette lutte, et à mon avis, c'est quand même plus ou moins pour faire gagner le PS en 2007. Moi, j'en reste quand même
convaincu. C'est clairement ça, hein. C'est...
Est-ce qu'ils ont
Hollande nous a dit, oui, on n'a pas ce pouvoir de mobiliser, d'instrumentaliser ou je sais pas quoi. Moi, je crois clairement que si, au contraire. Et je crois que par contre, on ne le dit pas clairement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, oui, bah, nous sommes le PS et nous allons vous instrumentaliser. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est clair, parce que l'UNEF, c'est quand même beaucoup de socialistes. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amis à l'UNEF, donc je veux pas me faire d'ennemis non plus trop ce soir, bon, même si c'est déjà commencé, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que...
T'es cuit, le jaune. C'est fini.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis complètement... Moi, je suis grillé maintenant. Je ne veux plus rentrer dans une assemblée générale de l'UNEF.
Ouais.
Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ce qui est dommage, c'est que... Je trouve que ça a dévié, quoi. Ça a dévié parce qu'ils auraient fait leur grève. Ils auraient fait des assemblées générales avec de réelles discussions sur le CPE. Ils auraient eu leur point de vue, et puis on aurait eu des points de vue pro-CPE. Enfin bref, on aurait eu un vrai débat dans l'université. C'est lieu. L'université, c'est un lieu de débat, un lieu de savoir, etc. C'est pas un lieu de blocage. On aurait eu ça. Je vais vous dire, je pense même que l'UNEF aurait gagné des voix. Et je pense même que ça serait, à mon avis, plus servi la gauche. Honnêtement. Parce que là, je vous assure que c'est ne serait-ce qu'à Paris, je vous assure qu'il y a les élections municipales à Paris, là, je sais plus, enfin, c'est d'ici un an. Je sais pas exactement quand, c'est dans
c'est
deux
en 2008.
Mois. C'est en 2008, bon pardon, alors excusez-moi, c'est un peu plus loin, mais le truc c'est que, honnêtement, si les gens continuent de voter à gauche à Paris, ils n'ont rien compris. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le quartier latin, ça fait peur de se dire que on est dans une société démocratique, on se croirait vraiment dans une société pris de siège, quoi. Vous avez des centaines de policiers armés jusqu'aux dents, des quarts de policiers, mais sur des trottoirs entiers, sur des centaines de mètres, c'est affligeant. Et quand même, il faut rappeler que les responsables de cette déviance-là, parce que quand on crée ce genre de mouvement, il y a toujours ce genre de déviance, eh ben, excusez-moi, mais c'est quand même l'UNEF. C'est les JCR, c'est la GEN, alors au niveau de Nanterre, c'est la GEN qui est un groupe trotskiste propre à Nanterre, et puis c'est la CNP. Et il y a un moment ou un autre, il va falloir quand même marquer cette responsabilité pour eux, et je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'adhérents, et notamment moi. Parce que, bon, bah, comment croire? Bon, déjà, c'est vrai que j'étais plus trop dedans, mais alors là, je veux dire, ça devient ridicule. On est devant des situations qui sont extrêmement violentes et qui ont été créées par eux. Ou du moins, ils ont cette responsabilité d'avoir créé un mouvement qui est devenu violent. Et moi, c'est ça qui me terrifie. Et je trouve quand même que derrière, on a le petit Julliard bien mignon qui arrive à la télévision en disant « Mais nous, on veut pas renverser le gouvernement, on veut pas lui infliger des faits politiques, mais on veut retirer le CPE. » Mais c'est bien le gouvernement, et c'est bien l'Assemblée nationale qui a voté le CPE. Donc si on retire le CPE, c'est un échec, et c'est un affront au gouvernement. Faut arrêter de jouer la langue de bois, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolé, je m'emporte un peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Il est hypocrite sur l'affaire. C'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il est d'une hypocrisie sans borne. Et moi, c'est ça qui m'a choqué.
Il a géré pléthore de candidats à gauche, et comme aucun d'entre eux n'a vraiment de programme, il suffit de voir les contre-propositions qui ont été faites sur le CPE par Fabius, Troscan, Martine Aubry, Hollande lui-même, et j'en passe. La seule qui a rien dit, c'est Golden Royal, mais elle surfe sur les sondages. Et elle veut rester la reine des sondages, donc surtout moins elle en dit, mieux elle se porte. Je veux dire, ils n'ont pas de programme. Donc pendant ce temps-là, ils sont en train de choisir gentiment leur candidat, et Hollande est en train d'appliquer sa stratégie. Voilà. Mmh. Que ce soit sa femme ou son ex-femme, enfin, ils n'ont jamais été mariés, sa concubine, ou que ce soit un autre candidat, voire lui-même d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce qu'ils ont la moindre chance, je veux dire, en tout cas à l'étranger ça ne passe pas, quoi. Je veux dire, c'est pas la gauche qui va.
Oui, mais attendez, ils s'en foutent. Vous avez vu dans le même pendant ça a commencé avant le CPE, mais ça continue en ce moment. Tous les candidats la candidature au sein du PS font une course à l'échalote à qui sera le premier à aller soutenir un candidat au Chili, en Italie, etc., pour se donner une soi-disant dimension internationale. Moi, avec une carte Air France et des miles, je me donne une dimension internationale de la même manière. Roland aussi, d'ailleurs. Si la qualité d'un candidat au présidentiel, c'est le nombre d'heures qui passent dans les halls d'aéroports et dans les classes affaires des Airbus ou des Boeing... son champion. Et ceci dit, je voudrais rebondir aussi sur quelque chose qu'a dit Roland par rapport justement à la violence qu'il pouvait y avoir, notamment dans le quartier latin, et c'est vrai que c'est hallucinant à voir, c'est que les CRS, enfin les compagnies républicaines de sécurité, puis les gardes mobiles de la gendarmerie, qui sont ceux qui assurent le maintien de l'ordre, ils ont une maîtrise, parce que quand on voit la manière dont se déroulent les manifestations, et la manière dont la violence est présente, et qu'il n'y a eu quasiment pas de casse chez les étudiants, chapeau bas aux forces de l'ordre. Parce qu'on serait, on serait dans un autre pays, je peux vous dire que ça se passerait différemment.
Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment souligner cet aspect-là. Ça, je suis entièrement d'accord, parce que quand on voit que, par exemple, pendant une demi-heure, on les insulte, on leur balance toutes sortes de projectiles, et puis ils ont l'ordre de ne pas bouger, du moins pour l'instant. Je vous assure qu'il y a des moments où on se dit, franchement, quand ils chargent, on se dit que c'est simplement normal. On les traite de tous les noms. On leur balance des trucs, mais quoi, c'est hallucinant ce qu'on leur balance. C'est complètement aberrant. Et puis finalement, et après on ose dire, bah oui, c'est eux les violents. Enfin bon, faut bien voir quand même qui commence. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc,
j'invite les internautes à regarder les images qui sont disponibles sur Internet, notamment de ce qui s'est passé à Nation, où un syndicaliste de Sud est décédé, et quand on voit la violence des affrontements qui ont pu avoir, le harcèlement des forces de l'ordre et la manière dont les forces de l'ordre ont réagi, on le voit de visu, en regardant les images, ils ont été exemplaires.
Alors justement, par rapport à ça, je veux dire, justement, le cas de Cyril Ferrez, qui n'est pas mort, qui est toujours dans le coma, je veux dire, ce sont les seules images de véritables affrontements avec vraiment flashball et cocktail molotov qu'on ait vu. Sinon, on voit généralement que des étudiants qui chantent, sourire aux lèvres, et puis des jolies lycéennes de 18 ans, soit des flics casqués qui chargent, donc image relativement négative.
Ouais, mais ça, c'est le poids de l'image.
Et je crois qu'une finalement une bonne façon de résister, puisque nous sommes dans le panel des solutions pacifiques, n'est-ce pas, l'idée serait quand même de prendre des images du plus fort des affrontements pour qu'on puisse vraiment voir de quoi sont capables ces soi-disant grands défenseurs de la démocratie et de la jeunesse que sont les anti-CPE. Si on arrive vraiment à montrer à quel point c'est une recherche de violence et de bataille, Disons, s'il y a des gens, s'il y a des gens chez vous qui peuvent prendre ce type d'image, moi je les diffuse assez vite. Hein. Moi ça m'intéresse beaucoup.
Ben,
mais...
Il faudrait pouvoir filmer une AG.
Ouais.
Parce que ouais. Les journalistes qui font des papiers tous les jours sur les AG ne sont jamais présents dans les AG. Jamais. Parce qu'ils ne laissent pas rentrer. Pourquoi ? Parce que si on montrait des images d'AG, on verrait qu'on est, mais alors, au-delà de l'antidémocratique.
Bon, bah alors, caméra cachée, hein, si vous avez des images d'AG, non, c'est un appel à tous les internautes, je les prends et je les diffuse.
C'est, si vous allez sur le blog stopcpeblogspot.fr ou je sais pas quoi,
d'accord.
Vous avez des vidéos. Vous avez des vidéos des AG, donc si Adrien, allez-y, je vous donnerai l'adresse après.
D'accord.
Mais vous avez des vidéos, et le pire, alors je sais pas si elles y sont encore, parce que c'est complètement hallucinant, ils diffusent des vidéos qui les discréditent. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé une vidéo du fameux vote du jeudi 9 mars, donc qui a été la grosse assemblée générale à Nanterre, qui a fait un tollé au niveau des étudiants monstrueux, parce que, soi-disant, on était beaucoup moins nombreux, et ils ont montré les images des votes. Ils les avaient mises. Alors, je sais pas si elles y sont encore, mais ce serait amusant de les avoir. Mais ils avaient montré clairement les votes pour la continuation du blocage ou contre la continuation du blocage, la poursuite du blocage. Et on a vu clairement que c'était beaucoup plus serré que ce qu'on nous a raconté au niveau des décomptes après. Donc,
vous allez...
c'est vrai qu'on... Oui, non, vas-y, vas-y.
Non, non, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Il faut aussi aller sur un site qui a été monté par des étudiants au départ parisiens. Qui s'appelle les étudiants bâillonnais et qui rassemble l'ensemble des infos qu'on leur donne visiblement par email sur ce qui se passe dans les universités partout, non seulement à Paris mais aussi beaucoup en province, et c'est pas de temps, avec notamment le nombre d'étudiants qui sont inscrits dans l'université, le nombre d'étudiants qui participent au vote dans les AG et le résultat à la clé. Quand vous regardez les résultats à chaque fois qu'on fait voter avec présentation de la carte d'étudiant, avec bulletin de vote, j'allais dire classique, ou tout simplement une méthode de comptage qui est simple, c'est-à-dire en fait vous les faites passer dans un couloir et vous comptez les pour les contre, à chaque fois les blocages sont levés, à chaque fois. Et sur ce site, ils recensent à peu près tout ce qui a pu se passer au sein des universités et des écoles, un peu partout en France, et c'est flagrant.
Alors il y a eu un cas justement sur TF1, c'est le seul qui a été à mon avis, à ma connaissance, mentionné, d'un vote à justement à bulletin secret avec urne et tout le tremblement, même des isoloirs, donc c'était très organisé. Et c'était sur TF1 et à la fin ils disent très clairement « alors le blocage a été continué ». Donc ça c'était un cas, mais j'étais un petit peu surpris de voir que TF1 finalement quelque part... est assez favorable hein, aux anti-CPE. On sent qu'ils soutiennent ce mouvement. Est-ce que vous avez une explication, les deux, pourquoi ? Est-ce que finalement, on sait quand même que TF1 carbure à fond pour Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas une partie sarkozienne de l'UMP qui a gagné ?
La réponse n'est-elle pas dans la question posée ?
Oui, sans doute. Donc finalement, si les médias de droite jouent le jeu des médias de gauche actuellement, c'est parce que Sarkozy veut la peau de Villepin et puis qu'il est en train de l'avoir.
Et moi, je crois en plus, sincèrement, que Villepin tient, j'allais dire, vraiment le bon bout, justement à cause de ça. C'est que c'est vraiment un empêcheur de tourner en rond. Les petites guéguerres, les petites magouilles politico-politiciennes et compagnie, lui, visiblement, d'ailleurs, même pas visiblement, il suffit de voir comment il agit en ce moment. Ça lui passe très très au-dessus.
Ah, mais les mecs de gauche sont trop sommaires pour comprendre que finalement ce sera le rempart contre Sarkozy. Il aura été le méchant dans l'affaire du CPE et puis ils vont l'assassiner.
Mais, méfions-nous du côté. Ouais, non mais il y a eu d'autres circonstances où aussi, à l'issue justement de trucs qui étaient bien plus importants que ce qui se passe sur le CPE. Je pense notamment après mai 68 que rêvent de refaire d'ailleurs tous ceux qui sont
mais on n'entend plus que ça.
Grévistes et contre le CPE, c'est leur grand fantasme. Je rappelle quand même que Pompidou a été élu président de la République et que de ce point de vue là on peut tout à fait comparer ce qui s'est passé après mai 68 puis avec l'élection de Pompidou et de ce qui se passe aujourd'hui et avec l'action de Dominique de Villepin. Mais c'est une opinion, hein. Voilà.
De toute façon, dans ce genre de mouvement, il faut qu'il y ait une tête qui saute, quoi. Donc, on l'a vu d'ailleurs pour la question du référendum, c'est Raffarin qui a sauté. Bon, bah voilà. Le truc, c'est la vraie différence qu'il y a, c'est que le président est derrière son premier ministre. Et en grande partie aussi parce qu'il n'aime pas Sarko, Chirac. Il a quand même un gros contentieux depuis un certain nombre de temps maintenant. Donc il se dit que si il soutient pas Pépin, il consacre littéralement Sarkozy pour la présidentielle de 2007 comme candidat. Et ça, quand même, moi, ça lui plaît pas trop. Je pense qu'il y a aussi cette raison-là. Même si honnêtement, je ne sais pas combien Chirac soit contre le projet du CPE, je pense qu'il est plutôt pour, hein. Je pense qu'il est plutôt favorable. Ça a été vraiment l'un de ceux qui a été même le plus ferme, que j'ai trouvé un peu désemparant. Moi, c'est le manque d'union derrière le chef du gouvernement. On l'a un peu laissé, je veux dire, que ce soit Thierry Breton, que ce soit Jean-Louis Borloo, qui sont donc ministres de l'économie, ministres de la cohésion sociale et de l'emploi. On a vu qu'ils étaient un peu derrière, bon, mais à moitié, quoi. Ils étaient là parce que, ils étaient donc.
Mm-hmm. Oui, Laurent. Il y a une raison simple à ça. C'est que c'est la première fois, en tout cas, de ma mémoire, donc on va dire qu'elle remonte, ma mémoire politique, elle remonte au milieu des années 80. C'est la première fois qu'on voit un Premier ministre accepter de prendre les coups pour les ministres qui sont censés être en charge du dossier. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Il ne faut pas le perdre de vue, hein. C'est-à-dire qu'une réforme telle que le CPE, elle aurait dû être effectivement portée par Breton et Borloo, et que Villepin a accepté de prendre les coups pour ses ministres qui sont théoriquement les fusibles habituels. Et ça, c'est une première, depuis très longtemps. Et même si on remonte plus de manière, comment dirais-je, qu'on remonte un peu plus loin dans l'histoire de la Ve République, j'ai pas de souvenir particulier, si je prends les livres d'histoire, de situations où on a vu un Premier ministre accepter de prendre les coups pour ses ministres.
Oui, c'est vrai.
Mais ce qui il assume, quand même aussi, il assume complètement cette réforme, hein. Il la porte, et c'est le cas de le dire, il la porte à bout de bras, et il est effectivement en première ligne, et ça n'était, mais que ce soit droite ou de gauche, moi je ne l'ai jamais vu, de mon vécu, enfin, de ma vision de la politique que j'ai pu observer ces 20 dernières années. Je ne l'ai jamais vu.
Ce qui prouve au moins une chose, à défaut qu'on soit pour le CPE ou contre, enfin bref, qu'on soit pour ou contre le CPE, ce qui prouve quand même une chose, c'est l'honnêteté quand même du Premier ministre et le fait que c'est vraisemblablement pas un électoraliste. Parce que vu le fait, là, vu l'embourbe que ça prend, vu le caractère choucroute que prend la mesure du CPE, et qu'il est toujours derrière, c'est vraiment que lorsqu'il nous disait « je suis un homme de conviction et d'action », c'était pas des conneries. Qu'il nous a vraiment pas menti, et ça c'est quand même... Moi, j'étais pas spécifiquement pro-Villepin, je vous avoue, avant l'affaire du CPE, j'avais pas vraiment d'opinion. Mais je vous avoue que là, ça me l'a rendu profondément sympathique. Après, sa mesure, bon, bah évidemment, elle a ses défauts, ses qualités, on a le temps d'en parler, mais lui, en tant qu'homme, j'ai quand même trouvé profondément admirable, ouais. Ça c'est vrai que... Il prend les coups avec, et puis en plus il les prend avec le sourire, sans jamais s'énerver. Enfin, bon, alors peut-être que là c'est des trucs de politicien, j'en sais rien, mais je trouve quand même qu'il a la classe, quoi. C'est pas du tout un mec qui va dire bah oui c'est vrai que ça c'est mon ministre qui a fait une connerie dans le texte, il a mis ça alors que moi je voulais pas. Non, il a assumé entièrement le texte d'un bout à l'autre et il a essayé de le défendre d'un bout à l'autre. Il a pas dit oui ça c'est vrai que c'est pas très bien, ça c'est non, il a dit le texte est très bien et voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui a au moins il a le courage de ses idées, ce qui est quand même relativement rare, surtout en France.
Mais est-ce que celui qui tire réellement les marrons du feu, c'est pas notre ami Sarko? Je veux dire, on l'entend très peu sur ces questions-là. Il a l'air justement de pas être concerné. On a l'impression qu'il est pas vraiment ministre de ce gouvernement-là. Et puis il envoie ses flics, il passe un coup de balai et apparemment pour lui tout roule, quoi.
Je suis pas sûr, hein, parce que envoyer ses flics, comme vous dites, pour un ministre de l'Intérieur, c'est jamais sans risque. On l'a vu par le passé. Je pense notamment à l'affaire Manikou-Sekine dans les années milieu des années 80. C'est pas sans risque. Au-delà de ça, et au-delà des ambitions présidentielles, de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas intérêt à voir Dominique de Villepin se planter là-dessus. Leurs sorts sont liés. ils appartiennent au même gouvernement qui, voilà, et je pense que Nicolas Sarkozy en est parfaitement conscient.
Et puis surtout là, par rapport à l'affaire de Cyril Ferrez, c'est que si Cyril Ferrez devait décéder malheureusement, c'est lui qui prendra en premier. Parce qu'il sera le ministre de l'Intérieur qu'on a décrit comme sécuritaire depuis des mois, maintenant presque des années. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on attend qu'il y ait une bavure, si vous voulez. Alors même à la limite, si on, s'il est avéré que les policiers sont pas réellement responsables de sa mort, on va lui mettre le truc sur le dos. Ça, c'est sûr et certain. On attend que ça. Je suis pas spécial. Alors là, concernant Sarkozy, je suis beaucoup plus mesuré que sur Villepin. Donc, moi, je vous avoue que c'est pas du tout pour le soutenir, mais je suis sûr, on attend, il y a tout un tas de gens, notamment à gauche, qui attendent que ça de voir Sarkozy se planter sur ses mesures policières et sécuritaires. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on le guette avec sa petite affaire qui se plante, et là, bon bah voilà, c'est l'opportunité. Si Cyril Ferrez meurt, il va en prendre plein la gueule. Ça, c'est clair. En plus, il a été un peu réservé jusqu'à maintenant, parce qu'il a été mis un peu en retrait. Et là, c'est clair qu'il va prendre cher.
Ouais, mais le système défensif, ça avait l'air quand même déjà bien préparé. Il y a même un CRS qui dit avoir entendu de la bouche même de Cyril Ferrez qu'il aurait été tabassé par des syndicalistes.
Par des manifestants.
Ouais.
Mais il y a de toute façon, quand on regarde les quelques images disponibles sur Internet des événements qui sont passés à Nation, vous savez, il y a un certain nombre de journalistes de terrain qui sont avec les CRS pendant les, entre guillemets, les charges. Mmh. On les reconnaît d'ailleurs parce qu'ils sont, ils ont pas les tenues ad hoc de CRS, mais ils ont des casques, etc. Et il y a un certain nombre d'images qui ne circulent pas, et pour cause, puisque il y a une enquête en cours, etc. Et que je pense que les images des télévisions présentes et des photographes présents vont être étudiées à la loupe. Sincèrement, au vu de ce qui était disponible comme image sur Internet. Moi, et au vu de ce qui se passe dans la rue, ce que disait Roland, notamment dans le quartier latin, etc., je suis impressionné du fait qu'il n'y ait pas eu. Ils ont une maîtrise. Ils contrôlent vraiment ce qu'ils font, les CRS. Hein, ils ne cherchent pas avec n'importe comment, ils le font avec parcimonie, ils le font que quand c'est nécessaire, etc. Hein. Honnêtement, je ne suis pas très inquiet pour le ministre de l'Intérieur quant à cette question-là. Je déplore juste qu'un type, même s'il n'en partage pas les mêmes idées, se soit retrouvé aujourd'hui, soit dans le coma, à l'hôpital, etc. Même si au départ il a pris des risques démesurés et que à plusieurs reprises il a été sorti de la manif, qu'en plus il était très très alcoolisé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'il avait pris sa bagnole à la sortie de la manif pour prendre le périphérique, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Mm-hmm. C'était la faute de Nicolas Sarkozy ?
D'accord, ouais. Non, puis... Une dernière chose, partons, vous
tout
deux...
comme l'étudiant qui a fait une overdose à Strasbourg. Hein,
c'est ça, ouais. Mais est-ce que vous-même, vous êtes allé sur le terrain pour voir un petit peu comment se passaient ces charges, comment se passaient ces manifestations ? Vous ne les avez vues qu'à la télévision ?
Non, enfin, je sais pas pour Roland, mais moi je suis allé voir, notamment lors de la grande manifestation de samedi, où j'ai pu constater d'ailleurs que je suis très mauvais en maths, mais même en prenant la première ligne de la manifestation, qui est la plus dense, par essence, puisque c'est là où il y a tous les leaders syndicaux, etc., et que tout le monde veut être en première page, et qu'on la multiplie par la distance entre République et Nation, il y avait certainement pas 1 500 000 personnes, c'est impossible. D'autant qu'entre certains rangs, il y avait jusqu'à 100 mètres, voire un peu plus d'écart.
D'accord.
Et on parle de 320 000 à Paris. Hein.
320 000 à Paris, ouais.
T'as 1 500 000 sur la France, donc enfin.
Ouais, mais même.
Ce que tu voulais dire.
Même sur même à Paris, il y avait pas. D'ailleurs, oui, les journalistes ont annoncé des chiffres qui étaient sur la manif. Qui était au départ de quelques dizaines de milliers. Donc chez moi, quand on parle de dizaines de milliers, ça veut dire qu'on est en deçà de 100 000.
Oui.
Et c'est à peu près le chiffre qui ressort. Sachant que partout en France, il y avait à peine, dans le meilleur des cas, il y avait à peine 10% d'étudiants.
Oui.
Et que la plupart du temps, c'était plus des lycéens que des étudiants.
Entendu. Ouais.
Il y a une culture de manifestation qui s'est développée depuis l'an dernier, ça, c'est, par rapport aux lycéens, depuis la loi Fillon. Donc, ça, c'est vrai.
Même depuis plus. Hein, Je veux dire, aujourd'hui, moi, je propose même d'inscrire dans le cursus, ça, ce qui permettrait de résoudre une partie du problème de, dont parlait Roland tout à l'heure quant au passage d'examen et au bachotage de cet été, etc., d'inscrire dans le cursus étudiant et lycéen français la manif comme étant une option avec un gros coefficient, ce qui permettrait un certain nombre de lycéens d'obtenir leur bac assez confortablement et un certain nombre d'étudiants d'obtenir leur année assez confortablement également.
Mmh, marathon avec option manif, ça pourrait être pas mal ça. Ouais.
C'est à creuser.
D'accord. Mais écoutez, je crois qu'on va gentiment s'arrêter sur ces belles choses. C'était particulièrement intéressant ce soir, je vous remercie bien. Je sais pas si vous avez un mot de la fin, Roland, peut-être.
Mais je voulais juste je sais pas. Ce qu'on sait, c'est que la prochaine manifestation unitaire pour les anti-CPE, c'est le 28 mars. Et que tout ce qui est anti-blocage, on espère, normalement il y a une manifestation qui est organisée dimanche prochain, mais on ne sait ni l'heure ni le lieu pour l'instant. On espère simplement faire plus de monde, et puis petit à petit on va essayer de regagner le terrain. Mais non, l'angoisse maintenant, c'est pour les étudiants, c'est surtout ça. Je pense que moi je vais terminer là-dessus, c'est que l'angoisse pour les étudiants, c'est l'été foutu, quoi. Que ce soit au niveau du travail ou des vacances, ça s'annonce quand même très très compliqué, quoi.
D'accord. Enfin, voilà. Et Laurent ?
Ce que je voudrais dire, c'est que j'appelle vraiment tous les étudiants et tous les lycéens qui sont contre le blocage, contre la grève, à se mobiliser. Qu'ils aillent sur le site de l'UNI ou sur les blogs qui ont été créés un peu partout en France, qui rejoignent, vraiment qu'ils se mobilisent. Parce que il ne faut pas se demander ce qu'on peut faire pour eux, mais demander ce qu'ils peuvent faire pour justement leur cause à eux. C'est à eux vraiment de prendre leur destin en main et de montrer que les bloqueurs, les grévistes et les anti-CPE sont loin d'être majoritaires. Et ça résoudra de fait la question que soulevait Laurent et qui Roland pardon et qui est effectivement au cœur des préoccupations des étudiants aujourd'hui, c'est de savoir s'ils pourront passer leurs examens en temps et en heure et s'ils pourront profiter de l'été qui pour bosser, qui pour se reposer. Et vraiment, il faut que les étudiants qui sont contre la grève et contre le blocage se bougent et se mobilisent. Du reste, si des étudiants suisses veulent venir nous donner un coup de main, c'est avec grand plaisir.
On leur transmettra, c'est sûr. chez nous, la semaine universitaire vient de recommencer, en tout cas à Fribourg. Enfin, les étudiants suisses n'ont pas fait grève depuis, mon Dieu, pratiquement depuis la naissance des universités au Moyen-Âge, donc c'est encore à voir. c'est un peu comme ça chez nous, c'est la paix du travail et les études. On vous remercie bien. Alors, on continue donc.
Merci
les appels. On est friands d'images qui ne passent pas à la télévision, d'images d'agences, aussi de ce que vous pouvez trouver sur Internet, et les AG en général, si vous avez des images ou du son, c'est tout à fait diffusable pour nous et ça nous intéresse fort. Vous trouverez très bientôt, je pense dès ce soir, l'émission qui vient de se dérouler, et vous trouverez aussi donc les références des différents intervenants et surtout les blogs qui ont été mentionnés pendant l'émission. Laurent et Roland, je vous remercie bien. Roland, je te retrouve demain pour Chronique de France, l'émission du jeudi de BAF Radio. Je vous salue bien et je vous remercie. Hein. À bientôt.
Merci, bonsoir.
Tout de bon. Hein.
Au revoir. Bonsoir.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds.
are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on.